Bonsoir à tous, quel dimanche de folie. Oui, 40 buts sur cette 31e journée de Ligue 1. Je peux vous dire que le président de l'équipe du soir est très heureux parce que la Ligue 1 va dépasser le milliard au minimum. On va évidemment revenir également sur le 12e titre de champion de France du PSG et sur Marseille qui s'est donc imposé il y a quelques instants 2-1 face à Lens. Le président de l'équipe du soir, c'est monsieur Raymond Domenech. Comment allez-vous?
Tout va bien. Tout
quelle
va
folie bien. 40 buts.
C'est vrai qu'il y a eu des matchs extraordinaires, notamment à Lyon-Monaco qui a été...
Celui-là, il vous a particulièrement plu.
Vraiment plus.
Mais il y a eu également des matchs de dingue entre les Rennais et les Brestois. Marseille qui s'impose. Effectivement, le match de fou également entre Lyon et Monaco. En tout cas, toutes les équipes de Ligue 1 ont marqué ce week-end. Bravo à elles. On s'est absolument régalé. Il y a un homme qui est heureux, c'est pour la Ligue 2. Et c'est notre beau gosse, Timothée Mémon. Comment allez-vous?
Très bien. Je suis confit de bonheur et d'espoir depuis hier.
Confit de bonheur.
Et en vert.
J'aime beaucoup cette expression.
Ouais, mais c'est comme ça que je me ressens depuis hier soir. J'ai l'impression de baigner dans un bain de bonheur et d'espoir.
Ça me fait penser à une pile de canard confit.
Exactement. C'est exactement la même chose.
Eh bien écoutez, magnifique. Avec des petites pommes de terre à l'aise.
Mais dans le bonheur, c'est un peu...
Magnifique. Est-ce qu'il est confit de bonheur, mon cher Fenech?
Je me dis que c'est toujours difficile de passer après le beau gosse parce que tu peux mettre le paquet, tu peux tout faire. Bah, t'es pas au niveau. Surtout qu'en plus, il est envers et contre tous.
Nabil Djellit, vous êtes très chic. C'est parfait. Le Rico Blanco de la Pada, Eric Blanc, tout va bien?
Bonsoir, très bien.
En pleine forme.
Ouais.
À côté de vous, le professeur, bien évidemment, Dave Apadou. Bonsoir.
Comment ça va, Karine?
Écoutez.
Vous êtes en pleine forme.
Je suis
la plus en forme de nous tous.
N'est-ce pas?
Mais oui.
Et nous aurons toutes les infos avec Tanguy Le Sévier. Bonsoir Tanguy, vous allez beaucoup travailler ce soir parce qu'il y a eu énormément de buts et on va tout de suite regarder ce qui s'est passé. C'était donc le dernier match de cette 31e journée, on a eu 3 buts.
3 buts au Stade Vélodrome avec la victoire de l'Olympique de Marseille face au Racing Club de Lens. D'entrée de jeu, on va voir le premier but de la partie avec le centre d'Illiman Ndiaye pour la reprise de Pierre-Emerick Aubameyang, 27e but de la saison, toute compétition confondue. Égalisation de Lens par Wesley Saïd. Et puis derrière, c'est Pape Gueye qui profite de cette erreur de Massadou Aïdara pour conclure. Très très bon relais avec Pierre-Emerick Aubameyang. Victoire donc de l'OM ce soir face à un concurrent direct.
Et oui, Marseille qui s'impose, c'est très important. Et je vous le rappelle, le PSG qui est donc champion de France pour la 12e fois de son histoire. On en parlera un petit peu plus tard, mais on va rester sur ce qui est chaud. Et donc cette victoire ô combien importante pour les Marseillais. Marseille qui s'impose 2-1 avant ce rendez-vous européen qui sera jeudi soir face à l'Atalanta Bergame. Est-ce que cette victoire est une victoire rassurante pour l'Olympique de Marseille? Habillage à la Marseillaise. Eric?
Pour la suite, je dirais non.
Non, déjà pour ce soir, là.
Non, rassurante.
Oui.
Non, pas tellement.
Professeur?
Ah si.
Ah si, professeur est rassuré. Mon petit confit de canard.
Rassurant.
Il est rassuré également.
Vous êtes bien Nabil.
C'est une bonne chose. Vraiment.
Il faudrait répondre oui ou non.
C'est une bonne chose par rapport au match à venir face à l'Atalanta.
Donc ça veut dire oui.
Oui, oui, voilà. Enfin, rassuré.
Oui, oui.
C'est une bonne chose, quoi. C'est ça, c'est clair.
Il y a un contre.
Est-ce que vous voulez faire un petit duel ou pas?
Ouais, c'est bien d'avoir les arguments.
Écoutez, très bien. C'est évidemment notre président qui décide. Oui, donc il y aura un duel.
Un petit duel, pour commencer, pour lancer le débat.
Tout à fait.
Il y a du rythme dans cette émission.
À mon avis, il y a peut-être également le jingle qui va partir. On ne sait pas.
Oui.
Devrait arriver. On essaye, on me dit. Il y a un petit problème.
Sinon, on peut échanger.
On fera sans jingle et je vous le rappelle, nous avons Giovanni Castaldi qui est envoyé spécial à Marseille. Nous l'aurons dans quelques instants aux côtés de Nicolas Chébriand. On n'a pas de jingle, mais on a des arguments, bien évidemment. Eric, vous n'êtes pas rassuré, vous voulez défier qui?
Timothée, je ne l'ai jamais...
Tu l'as jamais
battu.
Jamais
saigné.
Parce qu'on n'est pas souvent ensemble. Ouais.
Vous ne l'avez jamais
pratiqué. Il n'aime pas Messi. Non, j'ai rien dit. Pardon.
Écoutez, c'est une première. Donc, mon cher Timothée, vous allez défier Eric.
Avec plaisir.
Et il aimerait donc entendre vos arguments. Oui, c'est une victoire rassurante selon vous. Vous avez 30 secondes.
C'est une victoire rassurante parce que cet Olympique de Marseille montre qu'il a un petit peu de caractère. Alors, ça a été un peu offert par le Racing Club de Lens, mais il y a quand même eu de bonnes choses. Je pense que quand on arrive à ce stade-là de la saison, il faut pas nécessairement bien jouer. Il faut être pragmatique, arriver à remporter les matchs. C'est ce qu'a réussi à faire Marseille. Marseille, certes, doit remonter au classement, mais Marseille doit aussi aller chercher de la confiance quant à la Coupe d'Europe parce que c'est le chemin le plus court pour eux pour aller en Ligue des Champions et le plus sûr. Donc, pour moi, c'est plutôt rassurant. Il y a des choses à améliorer, mais cette équipe s'accroche.
C'est à vous.
Moi j'ai entendu des banalités parce que bien sûr que c'est une victoire essentielle pour Marseille et je suis très content et je l'applaudis dès demain. Mais après, elle n'est pas rassurante parce qu'en deuxième mi-temps, ils ont quand même sombré physiquement. Ils vont jouer une équipe qui a du gaz. Moi, je la connais pas bien, mais qui a un potentiel athlétique, de vitesse. Et moi, j'ai l'impression qu'ils sont sur la jante. Ils ont les pneus rechappés. Là, ils s'en sortent par miracle sur une boulette terrible. Ils marquent un but de braconnier. Bravo à eux. Mais je suis pas rassuré par le fond de jeu. Et l'état de fraîcheur, mine de rien, c'est compliqué pour Marseille.
Entendre dire
non, vous n'avez plus de... Non, mais il y a eu un problème.
Il y a eu un bug, en fait.
Ça allait être compliqué, ça. Je suis désolé. Puis visiblement, vos arguments n'étaient pas très pertinents.
Si c'était pour dire d'autres banalités...
Si c'est pour s'entendre dire qu'en fin de saison, les joueurs sont fatigués, merci pour les banalités.
Il y en a qui ne sont pas fatigués. Arsenal n'est pas fatigué, City n'est pas fatigué, Madrid n'est pas fatigué.
Eric, vous avez eu 30 secondes.
Brest n'est pas fatigué. Il prend du temps, alors qu'il n'a pas le droit. Et c'est moi qui ai pris un carton jaune. C'est le monde à l'envers.
C'est les arbitres de Ligue 1.
Vous avez eu tous les deux 30 secondes, mais effectivement, le compteur avait un petit peu de mal au démarrage. Cher Président, vous avez entendu les arguments. Est-ce que vous avez été convaincu par l'un ou par l'autre?
Oui, pas par les banalités mais par la réalité. Je suis comme Eric, je trouve que c'est bien ce que Marseille a réussi à faire. Je veux dire, dans ce match-là, dans l'état où on les avait vus quelques jours avant, on se dit, ils auront du mal. Et ils ont encore une capacité, un ressort. Je trouve que ils sont bien adaptés au jeu de Lens. Ils sont partis, ils ont joué en contre, ils sont repartis de derrière, ils sont allés dans la profondeur, ils les ont gênés. Mais ça ne me rassure pas pour le match de Coupe d'Europe de celui qui arrive derrière. Quand on voit la qualité de l'Atalanta derrière, dans la gestion, je reste inquiet pour les Marseillais qui n'ont pas la solidité et la capacité athlétique de résister. Voilà, mais on peut être content pour eux sur ce match-là, mais on peut rester inquiet sur ce qui leur arrive, ce qui va leur arriver là. Dans quelques jours.
Point pour vous, Eric. On va partir au Stade Vélodrome tout de suite. Giovanni Castaldi, notre envoyé spécial. Bonsoir, Giovanni. Vous avez peut-être entendu les arguments sur le plateau. On se demandait si cette victoire était rassurante pour les Marseillais. Est-ce que vous êtes rassuré ou pas?
Bonsoir Karine, bonsoir à tous. Ça dépend ce qu'on prend en compte, si c'est rassurant pour la fin de saison et le potentiel billet en Coupe d'Europe via le championnat, ça peut être rassurant. Si c'est dans l'optique de la qualification face à l'Atalanta Bergame, non, pas du tout, parce que j'ai vu une équipe marseillaise qui était très touchée physiquement, qui avait beaucoup de difficultés à construire, il y avait pas mal de déchets. Je salue leur capacité mentale à s'être accrochée, parce qu'honnêtement, quand Lens égalise, tu peux te dire ils vont sombrer, ils sont tout de suite repartis de l'avant et on voit que cette équipe et ce groupe a des valeurs et ils sont soudés. Bravo à eux d'avoir marqué, de s'être imposé ce soir. C'était très important. Mais voilà, moi je suis désolé, mais quand je vois les matchs de l'Atalanta de Bergame et que je vois le degré d'intensité, ce qu'ils sont capables de mettre dans une rencontre, je suis très inquiet sur le plan athlétique pour les Marseillais. Ils ont plein d'excuses, il y a des blessés, enfin il y a plein de choses qui expliquent ça, mais ils ont l'air vraiment cramés, quoi, les pauvres.
Merci beaucoup Giovanni. Dave, vous étiez rassuré. On rappelle quand même que Lyon avait gagné dans les dernières minutes, que Marseille avait la pression, qu'ils pensent faire match nul à quelques minutes de la fin et que finalement ils arrachent la victoire. C'est tout ceci qui vous fait croire que les Marseillais ont fait plus que gagner ce soir ?
Moi je trouve que tout le monde les voit plus fatigués que soit ce qu'ils sont, soit ce que moi j'ai vu. En première période par exemple, moi j'ai essayé de trouver au-dessus de Lens. Moi je trouvais qu'ils avaient capacité à presser. D'ailleurs, les Lensois n'arrivaient pas à développer leur jeu, à installer leur domination. Ils étaient obligés de se faire des passes à répétition entre les centraux parce que vraiment, ils n'y arrivaient pas. Je trouve que les Marseillais étaient bien au contact. En seconde période, on a l'impression que Marseille n'est plus très, très dangereux, c'est vrai. Mais je trouve que Lens, sorti du but, je parle en seconde période, il y a très peu de choses, en fait. C'est-à-dire que même quand ils sont en souffrance, ils arrivent finalement à concéder assez peu de choses à l'adversaire. Alors après, peut-être que c'est dû au niveau de Lens. Bon, on pourrait discuter de ça. Mais moi, par rapport à ce que je projetais du match avant le début du coup d'envoi, je me suis dit, Lens, c'est une équipe qui, même si cette année, elle est moins performante, c'est une équipe qui met toujours de l'intensité, met toujours un engagement. Je me suis dit, ça va faire mal aux Marseillais. Et à l'arrivée, je trouve pas tant que ça. Je trouve que les Marseillais ont plutôt pas trop mal répondu. Alors ouais, si c'est de se dire, est-ce qu'ils ont tout maîtrisé? Non. Est-ce qu'effectivement ils ont de la réussite? Parce que Haïdara, comme elle est irréparable, on va tous être d'accord. Mais moi, je l'ai pensé en plus mauvais état que ça. Alors la question, la question c'est, est-ce qu'on est un peu rassuré? C'est pas la question de savoir est-ce qu'ils deviennent favoris contre l'Atalanta.
Non, on n'en est pas encore là.
Voilà, exactement. Moi, je trouve qu'ils sont dans un moins mauvais état que ce que tout le monde décrit. Mais peut-être que je me...
Nabil, on vous a pas encore entendu. Marseille, donc, est septième. Oui. Potentiellement, ça pourra être une place européenne. Mais il fallait, de toute façon, faire un résultat avant la réception de l'Atalanta à Bergame jeudi.
Pour moi, c'est une répétition à basse intensité par rapport à ce qui les attend face à l'Atalanta. Oui, en plus, le match est intéressant parce que la manière de jouer de Lens peut se rapprocher parfois de celle de l'Atalanta, même dans son système, dans son animation. J'ai noté également aussi que l'OM, ce soir, elle s'était organisée autrement, pas avec quatre défenseurs derrière, mais en 3-5-2. Je ne sais pas si ça va être... En tout cas, c'est l'impression qu'ils m'ont donné avec Klose sur un côté, Ulysse de l'autre, et Murillo, Gigot et le troisième, là, celui qui doit aller au Real Madrid, là, comment il s'appelle ?
Balerdi.
Ouais. Voilà, celui qui doit aller au Real
Madrid. Vous êtes taquin.
Pardon ?
Vous êtes taquin.
Ouais, parce qu'il y a un moment, faut être un peu lucide, quoi. Parce que Balerdi, je veux bien que ça soit un bon joueur. Mais il fait des bons matchs, mais à chaque fois qu'il y a des bêtises, une fois sur deux, il est dans le coup.
Oui, mais il se débite jamais quand il y a des séances de tir au but. Mais enfin, c'est pas la question.
Bon, ça, c'est un autre.
C'est vrai que c'est pas du
tout. Mais je tiens à le dire quand même.
C'est un autre débat. Et moi, je voulais aller plutôt pour apporter un complément, plutôt aller sur des individualités ce soir, parce que là, on parle du collectif. Il y a 2-3 joueurs que j'ai trouvé quand même pas mal. Alors, c'est vrai qu'il y en a qu'on peut estimer sur la jante. Bon, Pape Gueye, au-delà de son but, je trouve que c'est quand même intéressant ce soir, ce qu'il a fait. Et puis, je suis désolé, une fois encore. Alors je sais qu'il a été critiqué en début de saison, mais enfin, on peut le dire, il y a un Marseille avec et sans Aubameyang.
14e but en Ligue 1 pour Aubameyang ce soir.
Lui, il faut vraiment en prendre soin au maximum, parce que lui, même s'il a 35 ans, ça reste un joueur de niveau mondial par rapport à ceux qui l'entourent globalement. Et c'est un joueur qui peut vous gagner des matchs, même quand vous êtes en difficulté. Et puis si l'Atalanta, en plus, joue un peu comme Lens et vient vous agresser et tout, si vous arrivez à ressortir, j'ai l'impression qu'Aubameyang, alors je dis pas qu'il va faire les JO sur le 100, le 200, le 400 ou le 800.
C'est pas prévu.
Mais en tout cas, il est beaucoup plus rapide qu'en début de saison.
27e but, toute compétition confondue pour Aubameyang. Marseille nous appelle. Giovanni, finalement, vous êtes plus marqué par la pâle prestation des Lensoises que par la victoire marseillaise, c'est ça ?
Exactement, Karine. Pour le coup, j'étais assez d'accord avec Dave quand il parlait de l'OM. Effectivement, peut-être que c'est un regard un peu trop sévère, mais ce qui est sûr, c'est que ce soir, ils n'ont pas tombé face à une grande équipe, parce que j'ai trouvé que les Marseillais avaient été rarement mis en difficulté, parce qu'il y a un déchet mais monstrueux de la part des Lensois. Je veux dire, il y a quand même une occasion énorme d'Eli Wahi sur le raté de Murillo. Elle est énorme. Sotoka, la tête, bon, peut-être qu'il est un peu malchanceux. Ils ont quand même deux occasions énorme, et je trouve qu'ils sont imprécis, je trouve qu'ils n'arrivent plus à développer de jeu. Alors cette histoire de pressing, c'est une équipe normalement qui est très intense. Ce soir, je ne les ai pas vus dans cet état-là, les Lensois. C'est pour ça que je ne suis pas vraiment rassuré pour l'Atalanta Bergame, parce que je pense que ça va être 2-3 crans au-dessus, et que je ne vois pas comment Marseille peut résister à ça. Alors ça se trouve, je vois trop beau l'Atalanta, mais Lens ce soir, honnêtement, ils ont été très très décevants sur beaucoup d'aspects, techniquement et dans l'intensité.
Merci beaucoup.
Moi, je ne crois pas qu'ils voient trop beau l'Atalanta, hein, parce qu'on les a commentés sur la chaîne L'Équipe en demi-finale de Coupe d'Italie et même les tours d'avant. C'est une équipe, franchement. Effectivement, hein, là, ce qu'ils ont vu contre Lens, il n'y a rien qui les a préparés à ce qu'ils vont subir contre l'Atalanta, qui est plusieurs crans au-dessus sur le plan technique, sur le plan physique, sur le plan mental, parce que eux, c'est une équipe en confiance, contrairement à Lens. On a vu effectivement que s'ils cut à peu près des trucs très très simples, c'est qu'en ce moment, tout le monde est fébrile et très nerveux. Donc voilà, non, mais là-dessus, Giovanni a raison. C'est vrai que on peut aussi indexer ce qu'a réussi l'OM à la faiblesse de l'adversaire. Mais quand même, mais après, ils y arrivent, mais quand même.
Après, ils jouent pas Manchester City.
Donc on peut ne pas être trop rassuré quand même.
Moi, j'étais plus inquiet que ça. Alors, tu vois, c'est toujours
non,
pareil.
Non, mais
c'est...
il faut relativiser. Joe a tout à fait raison par rapport
à l'adversité.
Et Lens, c'est pas d'aujourd'hui. Ouais. Ça fait quelques semaines où ils sont totalement inoffensifs.
Non, bien sûr.
Je veux dire, ils n'y arrivent pas. Je veux dire, quand on voit les erreurs techniques, là, c'est un festival quand même. Que ça soit derrière, que ça soit devant, on ne reconnaît pas.
Je suis d'accord, mais en difficulté, ils sont passés devant Benfica. Ils ont contrôlé Toulouse, qui est une des équipes les plus performantes sur ces dernières
On parlait de Marseille, là.
De Marseille. Ils ont tenu contre Nice. Ils ont fait combien
2-2.
Contre Nice.
Enfin, ils menaient 2-1.
Voilà, mais oui. Bien sûr, mais contre une équipe qui, en ce moment, pareil, tourne pas si mal. Moi, je trouve qu'en ce moment, on leur promettait, et moi le premier, de s'écrouler complètement. Et franchement, pour l'instant, ils tiennent à peu près.
Et ben, on va parler aussi de l'adversaire, parce qu'on le sait, jeudi, il y a un match très important, demi-finale aller de Ligue Europa pour les Marseillais. D'ailleurs, il y aura une soirée, une journée spéciale sur la chaîne L'Équipe. Et mercredi également, il y aura une journée spéciale autour du PSG qui défiera Dortmund en demi-finale aller de Ligue des Champions. Cet après-midi, l'Atalanta Bergame jouer et l'Atalanta Bergame a une nouvelle fois gagné.
Ouais, victoire 2-0, c'est le troisième succès de suite pour la DA. Un succès 2-0 contre Empoli. C'est Mario Pazalic qui ouvre le score sur penalty, l'ancien monégasque. Ademola Lookman donne un petit peu plus d'éclat à cette victoire après un joli rush et une frappe parfaitement placée. Sixième, l'Atalanta est sixième de série avec un match en moins. Ça sera compliqué pour les Marseillais qui les affronteront jeudi en demi-finale aller de la Ligue Europa.
Jeudi, on rappelle, c'est le match au Vélodrome et il y aura donc le retour une semaine après à Bergame.
En demi-finale, à un moment, les meilleures équipes, elles sont là. Donc, je veux dire, on va le répéter 107 fois que l'Atalanta, c'est pas non plus Manchester City, c'est une très bonne équipe. Ok, Marseille paraît en dessous, c'est clair. Mais ils paraissaient aussi en dessous d'autres équipes qu'ils ont sorties. Donc voilà,
c'est vrai. On verra. Mais là où ils ont frappé fort, c'est quand ils ont battu Liverpool 3-0 là-bas. Mmh. C'est à claquer.
Ouais, mais il avait fait tourner Klopp. Alors, et à mon avis, il a fait
une erreur. Il a fait tourner après. Liverpool s'est un peu effondré. Quand on l'a vu cet après-midi, hier. Mais bon, quand même, gagner à Liverpool, même s'ils perdent chez eux 1-0 au retour.
Mais effectivement, Klopp avait fait des choix. Par rapport à ce qu'on a vu aussi ce soir, et Nabil en a parlé, Raymond, c'est que le buteur marseillais, et c'est lui finalement qui a quand même les clés de cette double confrontation, est toujours en forme. Là, il marque après quelques secondes de jeu. Si Aubameyang est bon, Marseille aura peut-être des chances. Sans grand Aubameyang, ça paraît mission impossible.
Comme Nabil le disait, avec ou sans lui, c'est pas pareil. Tout la même équipe. C'est lui qui donne, et il l'utilise bien à l'heure actuelle, c'est lui qui donne la profondeur. Et il est surprenant à son âge-là, il double encore les mecs. Il part au bon moment, il part au bon endroit. Techniquement, il sait garder le ballon. Il sait faire sur le but. C'est lui qui la remet sur le dernier but, même si c'est une erreur au départ. Mais la passe qu'il fait, c'est une passe extraordinaire dans le bon tempo. C'est le joueur au-dessus. Oui. Est-ce que ça suffira? Pour le moment, il y en a qu'un. À ce niveau-là, il y en a qu'un. Il est au-dessus.
Il y a Verretou qui est dans un autre registre, quand même un joueur important de leur saison. Mais évidemment, je disais tout à l'heure, un joueur de niveau mondial. Aubameyang, c'est une machine à marquer. Il a marqué dans tous les championnats où il a été. Il a été nommé dans des listes de ballons d'or. Je veux dire, évidemment qu'il reste des traces de tout ça.
Oui, mais pourtant, on a douté de lui. D'abord, on disait l'après Sanchez. Il est passé à Barcelone. Il a joué 3-4 mois. Il est parti à Chelsea. Il a pratiquement pas joué. Moi, quand je l'ai vu arriver, je suis derrière lui. Je l'ai toujours bien aimé.
C'est vrai.
On doutait quand même.
Bien sûr.
Et il portait quand même un sac à dos de 800 kilos avec Sanchez. Il n'y arrivera pas, ceci, cela. Bon, il s'est retapé. Rappelle-toi, dépression, il pleurait.
Non, mais ça dépendait.
Moi, je l'ai vu quand même au mois de décembre, janvier. Heureusement que le groupe marseillais était là et que le coach.
Ils ont réorganisé l'équipe.
Son début de saison n'était pas bon à Aubameyang, c'est vrai. Il en est à 27 buts. Une information très importante, juste, excusez-moi, Timothée. Une information de Giovanni Castaldi. Visiblement, Scamacca, l'un des buteurs de l'Atalanta Bergame, est incertain. Pour jeudi, donc effectivement, ça a une importance.
Gêne musculaire.
En pleine bourre.
Il y a qui derrière?
Gêne musculaire, donc on verra s'il est apte pour...
C'est Bergame, c'est pas Gêne qui Marseille joue, rassurez-moi.
C'est très drôle, merci Nabil.
Oh, tête était mieux.
J'ai beaucoup aimé surtout le regard de Timothée à côté.
On a été des mécréants de douter d'Aubameyang parce que à partir du moment où ce joueur s'est débloqué après Lille, Monaco et ses débuts à Saint-Etienne, il n'a jamais eu de véritable creux, à part quand les entraîneurs ont décidé de pas le faire jouer. C'est un garçon qui a une confiance en lui qui est énorme, meilleur buteur de l'histoire de l'Europa League. Là, il a probablement peut-être trois derniers matchs à jouer dans cette compétition. Il va vouloir briller. Il va être extrêmement important. Après, attention, moi j'ai un peu du mal à entendre là ce que j'entends partout. On nous dit que tout d'un coup, l'Atalanta, j'ai l'impression qu'ils vont affronter le Bayern Munich ou Manchester City. C'est une excellente équipe, il n'y a pas de problème.
Mais collectivement, ils sont impressionnants.
Mais bien sûr qu'ils sont impressionnants, mais sur deux matchs de Coupe d'Europe, j'ai l'impression que Marseille a 0,5% de chance de passer. C'est pas vrai. À un moment,
je sais pas trop où t'as entendu ça.
J'ai la sensation que l'Atalanta est énorme
tout le monde dit que Marseille n'est pas favori. Je pense qu'il y a à peu près
d'accord. Ils sont pas favoris.
C'est tout ce qu'ils disent.
Mais il y a pas pour moi, il y a pas 70.
Non, d'ailleurs, moi j'ai plutôt entendu le contraire. C'est-à-dire que comme Liverpool est sorti de la compétition. L'Atalanta, ça devient quelque chose d'un peu accessible, quand bien même, effectivement,
c'est comparativement à Liverpool.
Sauf que quand on met le nez dedans, c'est une équipe qui travaille bien sur 5-6 ans,
et qui
pourrait sans scandale finir par valider en gagnant une Coupe d'Europe. Et quand on voit les joueurs, ça parlait de Scamacca, mais Pasalic,
Lookman, attention.
Ils ont un entraîneur extraordinaire.
Voilà,
ce qui peut être quand même. Ouais, vas-y, parce inquiétant, c'est vu la cascade des blessures de l'OM quand même, à faire appel à des minots. D'habitude, il y a quand même des équipes qui sont programmées pour terminer un peu en boulet de canon. Oui. Eux, ils terminent comme ils peuvent, ils ont la roue qui touche le garde-boue, je suis désolé de te dire. Et moi, je vois des équipes qui sont plein pot, programmées, parce qu'un effectif plus riche, tout ce que tu veux. Mais eux, t'as l'impression que la saison est longue et longue, et tu te dis vivement les vacances pour eux. Et pourtant... Ils doivent
ils sont
se
toujours
battre.
Là.
Là, et ils doivent se battre aussi pour la 7e place ou la 6e.
Après, c'est inespéré.
En championnat, il y a du jus.
Vu ce
énormément.
Qu'ils font, vu ce qu'ils font, être en demi-finale, s'offrir ça par rapport à leur saison en Ligue 1, vous avez rappelé, Karine, qu'ils étaient 7e, avec la deuxième masse salariale la plus importante de Ligue 1, la plus importante de l'histoire du club. Mais c'est une. Plus qu'une bouffée d'oxygène.
Surtout après la première partie de saison rocambolesque. Parce que, voilà. Parce qu'il faut quand même rappeler, c'est une série Netflix, cette saison.
Souvent avec Marseille.
Souvent. Mais là, je trouve que, l'entraîneur Marcelino qui arrive, qui est au bout de combien,
4 matchs.
Voilà, 7 matchs. Il se barre parce qu'il y a, coup de pression, enfin, des supporters. T'as la direction qui implose. Ou Pablo Longoria perd ses plus fidèles. Et même lui, à un moment, on s'est posé la question, est-ce qu'il n'allait pas partir? Tu fais venir Gattuso, qui vient avec un logiciel complètement différent, qui est assez vite, tu t'aperçois que ça va pas faire la maille. Et en fin de compte, pour sauver ce qui peut l'être, tu fais venir Jean-Louis Gasset, qui sort d'une
séquence traumatisme
rocambolesque avec la Côte d'Ivoire. Non mais parce que c'est ça aussi.
Il n'y a que Marseille qui peut y voir.
C'est ça qui est fou. C'est que quand Jean-Louis Gasset arrive, c'est le mec qui s'est fait virer en plein milieu d'une phase finale. Dont
il fait le meilleur début de l'histoire de l'entraîneur de l'OM. Hein,
il est parti.
Oui,
c'est pas fait virer. Il est d'un commun accord.
Je pense que s'il veut rester, il le dégage.
Non mais la crise de novembre avec Longoria qui est au bord de la crise de nerfs. Benatia qui se clash avec son joueur.
On a tout vécu. Mais Marseille, on a tout vu.
C'est parfois comme ça que s'écrit l'histoire avec un grand H aussi. C'est à l'issue de saison comme ça que non mais c'est à l'issue parfois de
mais bien sûr.
Évidemment des fois il y a des progressions longues et parfaites comme celle de Manchester City qui vous amène à un titre au bout d'un certain nombre d'années et puis parfois il y a des coups d'un soir et bah ça sera peut-être le coup d'une saison.
Marseille en tout cas s'est imposé ce soir 2-1 face à Lens. On parle pas d'un coup d'un soir mais on parle d'un cadeau.
Oui, c'est
un très beau cadeau.
Un très très beau cadeau pour les supporters de l'Angers. Arrêtez de rire, s'il vous plaît.
Un siège de l'Orange Vélodrome a gagné.
Bien sûr, un siège de l'Orange Vélodrome a gagné. Ça se passe sur le compte X de notre émission sur l'équipe du soir. Donc, vous retweetez, vous followez le compte de l'équipe du soir. Et puis, bien sûr.
Magnifique.
Voilà. Et puis, vous pourrez vous sentir comme au Vélodrome.
Comme à la maison.
Voilà. Vous vous installez devant la télé pour regarder les matchs de l'OM.
C'est ce que je fais.
Avec le siège de l'Orange Vélodrome qui est donc
il est
à
pas mal, hein, le siège,
gagner. Vous voulez aller l'essayer?
Testé?
Non, je crois que ça tient sur des roulettes. Et si vous voulez, j'ai pas envie de me retrouver en béquille, quoi.
Non, vous inquiétez pas. On rappelle donc que Marseille s'est imposé 2-1. C'était le dernier match de la 31e journée. Une journée très prolifique. 40 buts. C'est vraiment spectaculaire. La Ligue 1 vaut plus d'un milliard ou pas, Raymond? Dites-moi tout.
Si ça avait un rapport avec les buts, ça se saurait depuis longtemps.
Excusez-moi, mais enfin, si la Première Ligue vaut aussi cher, c'est aussi parce que c'est un championnat spectaculaire et qu'il y a des buts, non?
Pas plus spectaculaire. Vous me parlez toujours des équipes, les 3-4 équipes qu'on voit. Moi, je vois les matchs Brighton, Wolverhampton.
Oui, même les matchs qui ne sont pas diffusés.
Tout ce qui finit en on,
ces matchs-là, finalement, oui. C'est comme nous. Il y a les matchs des premiers, puis il y a les matchs des derniers.
Et ce soir, on a eu droit à 3 buts. On va les revoir pour le plus grand bonheur de nos amoureux de Marseille, de Lens et de la bonne vieille Ligue 1 de Vincent Labrune, bien sûr.
40 buts dans cette journée de Ligue 1. 3 à l'Orange Vélodrome. Et cette victoire marseillaise ce soir face au Racing Club de Lens. Le premier but, on va voir le passeur décisif, Illiman Ndiaye, qui trouve parfaitement Pierre-Emerick Aubameyang. On l'a dit tout à l'heure, 27e but de sa saison, toute compétition confondue. Les Lensois vont quand même réussir à égaliser grâce à Wesley Saïd. Massadio Aïdara pour Lens va commettre cette erreur qui profite finalement à Pape Gueye. Marseille s'impose 2-1. Marseille est 7e de Ligue 1 à 2 points de sa victime du soir.
Et on attend les premières réactions avec Jean-Louis Gasset et Francaise en direct de Marseille. Justement, il y a eu effectivement un mano à mano entre Lens 6e avec 46 points, Marseille 7e avec 44 points et Lyon à égalité de points avec 44 points. Messieurs, je vous demande d'être Madame Irma, qui finira 6e, habillage à l'américaine.
J'ai envie de dire l'OM.
L'OM. Dev.
L'OL.
L'OL, très bien.
L'OM.
Bon, écoutez, vous avez l'air d'écouter.
Sans conviction.
Je recheck le classement, là.
Bah, je viens de vous le donner, mais j'ai pas été assez clair, peut-être.
Non.
Il y a 2 points d'écart entre Lens et Lyon. Marseille et Lyon ont le même nombre de points, 44. C'est bon?
Bah, moi, je vais dire Lens, parce qu'ils ont 2 points d'avance sur les autres.
Calendrier.
Merci. Beaucoup. On fera pas de duel, vous inquiétez pas. Donc, président, non, selon vous? Lyon.
Ah, moi, j'aurais dit Lens aussi.
Ah, Lens va pas continuer à s'effondrer.
44.
Non, je pense pas. Ils ont, après, il faut voir les calendriers exactement, ouais, ce qu'il aura.
Ils reçoivent Lorient, Lens, et ils vont à Rennes. Et pour info, ils terminent avec Montpellier,
ouais,
qui vient à Lens.
Dans un calendrier qui est plutôt favorable pour Lens.
Mais la dynamique n'est pas très bonne. Il y a eu cette victoire 1-0 contre Clermont. Mais
oui, sinon, mais
ils et moi, je trouve qu'ils galèrent contre
tout le monde. Ils vont s'accrocher.
Ouais, honnêtement, je trouve qu'ils galèrent contre tout le monde. Et surtout, j'ai l'impression, et moi, pour moi, c'est un peu la différence avec les deux. C'est que j'ai l'impression que dans leur tête, il y a quelque chose d'un petit peu cassé. C'est-à-dire que depuis que Francaise a un peu acté que cette équipe était limitée, parce qu'il ne l'a pas dit dans ses termes, mais c'est un petit peu ça. Bah, d'ailleurs, je crois que c'était au micro de Giovanni lors d'une conférence de presse, quand Giovanni lui a dit « Mais est-ce que cette équipe, finalement, elle manque pas un peu de talent ?» Eh bien, il a été obligé d'acquiescer. Quand il a dit « Bon, bah, la Ligue des Champions, finalement, c'est pas pour nous, on est à notre place », j'ai l'impression qu'en fait, il avait cassé un truc derrière. C'est-à-dire que ces joueurs-là sont quand même des compétiteurs. Si tu leur enlèves un peu ce qui est une carotte, qu'ils y arrivent ou pas, mais je veux dire, tu leur enlèves ça, moi j'ai eu l'impression que lui est déjà, ou en tout cas donne le sentiment d'être déjà un petit peu ailleurs, et les joueurs donnent le sentiment de plus tout à fait y croire. Donc pour moi, Lens, en fait, il y a quelque chose de cassé dans leur dynamique, bien plus que Marseille ou Lyon, et c'est un peu au-delà du foot pour moi.
Oui, mais la carotte, c'est quand même d'être européen.
Non, mais la carotte, elle existe, mais moi, je
reste
trouve...
3 matchs.
Je suis d'accord, mais je trouve pas qu'ils jouent avec animé comme ça. Je trouve que ça fait plusieurs matchs que je les vois. Je vois pas une équipe qui te roule dessus.
L'équipe qui impressionne le plus, quand même, c'est Lyon. C'est Lyon, on est tous d'accord. On l'a vu encore cet après-midi.
La dynamique, ouais.
Ah bah oui, Lyon, oui, ils battent Monaco. Lyon, ils vont à Lille le prochain match.
Ouais, mais après, c'est Clermont ou je sais pas quoi.
Ils jouent
à Clermont.
Et Strasbourg,
ils reçoivent Strasbourg.
Ça fait 6 points. Ça peut vampiriser un peu d'énergie.
Voilà. Ils n'ont pas un calendrier.
Moi, je trouve que c'est
une victoire tout ouvert. Monaco cet après-midi.
Non, pas du tout.
Alors que Monaco était en pleine bourre.
Oui, j'aurais pas.
Moi, je trouve que c'est l'inverse. Moi, je trouve qu'ils sont portés par ça.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on pourrait croire que la Coupe de France vampirise. Moi, je trouve que effectivement, je trouve que, et ça, c'est un peu la bonne stratégie qu'a utilisé Pierre Sage, c'est qu'en fait, au lieu de les mettre off en quelque sorte, c'est bon, on s'est qualifié pour la Coupe de France, on a sauvé, enfin, le maintien est assuré, etc. C'est très bien. Maintenant, tout de suite, il leur a dit non, on va essayer d'être champion, d'être européen par le championnat. Mais en fait, ces joueurs-là, c'est ce que je disais, c'est quand tu leur proposes un challenge, c'est là que tu les animes. Sinon, ils se mettent à l'arrêt et là, tu risques de dérailler. Moi, je trouve qu'ils sont portés par ça, les Lyonnais. Ils sont portés par cette fin de saison qui n'aurait jamais dû se présenter sous cet angle-là. Et moi, c'est pour ça que je les vois favoris dans ce match à 3.
Timothée, Nabil, pour vous, ça veut dire que Marseille va faire mieux que Lens et que Lyon sur ces dernières journées. En 3 matchs, ils peuvent donc doubler les Lensois et ne pas
j'ai
être
dit Lens, hein, pour
ah bon Alfred, vous m'avez dit Marseille. Pardon. Timothée, vous m'avez bien dit Marseille ou pas?
Oui, oui, moi j'ai
vous n'aviez pas l'air très convaincu, mais j'ai cru que vous m'avez dit Marseille.
Non, en fait, c'est le coach de l'OM. Non, je ne veux pas critiquer la question elle-même, mais c'est toujours très, très difficile.
Vous pouvez dire qu'elle est nulle, hein, il n'y a pas de
problème. Non, elle est bizarre, en tout cas.
Mais
ce que j'entends, c'est qu'encore une fois, je pense que, de la même façon que Lyon peut être porté par l'idée d'une finale de Coupe de France, je pense que Marseille peut être porté par quelque chose en Coupe d'Europe. S'ils ne se prennent pas une gifle contre l'ogre Atalanta Bergame ce jeudi, et bah ça peut les porter. Et pourquoi pas revenir? Je regardais leur calendrier, il n'est pas dément non plus.
Non.
Il y a Reims, Lorient et Le Havre.
Reims, c'est comme un numéro 10, ça distribue des points. Tu les joues, tu prends des points. Non, mais c'est terminé, quoi.
C'est super décevant.
Non, mais vraiment, c'est.
Donc Reims, Lorient et Le Havre, c'est carton plein pour vous. 9 points.
Reims, Lorient.
Après, ils jouent
Reims, Lorient, je pense que oui.
D'abord, Lorient.
Ce sera un peu plus compliqué.
Je sais pas.
Comment?
Ils reçoivent 2 fois ou pas?
Non, ils vont à Reims, ils reçoivent Lorient, ils vont au Havre.
Non, mais attention, c'est des équipes qui jouent leur peau, qui vont se battre, mettre les barbelés. J'en sais rien.
La dynamique, elle est pour Lyon.
Mais vous m'avez dit Lens, alors.
Le classement, il est pour Lens.
Expliquez-moi, là.
Et quand ils ont 2 points, ils ont 2 tiers de joker, presque. Parce qu'ils ont quand même 2 points d'avance à 3 journées de la fin. Mm-hmm. Ça, on ne peut pas le prendre en compte. Au moment
et Lyon a un goal average tellement négatif que ça leur fait 1 point de moins.
Et Lyon à -9, Marseille plus 9.
Moi, Marseille, j'ai le sentiment, en championnat, c'est les vacances, quoi. Là, c'est parce qu'ils sont encore tenus par le match de l'Atalanta.
Non, parce que la 7e place.
On l'a vu ce soir, c'était pas des vacances.
La 7e place, c'est aussi qualificatif pour une Coupe européenne.
Ils jouent Nice, ils les battent
pas. Si le PSG gagne la Coupe de France.
Oui.
La 7e place est qualificative pour une place européenne. Il n'y a pas que le 6e qui compte, il y a le 7e aussi.
Le 7e.
Oui, mais pour l'instant, la réalité, c'est 6e, vous êtes européen, 7e, ça dépend de la finale.
Et puis,
si ça les excite de jouer Marie,
c'est ou Lyon ou le 7e.
Oui.
Qui peut être Lyon.
Voilà.
Il faut mieux être 6e.
Ou Marseille peut gagner l'Europa League, finir dans les 7e.
Et voilà, Paris l'emporte. Un petit peu,
Je crois qu'il va gagner.
Mais il y a Roma, Bayer Leverkusen en face.
On est complètement d'accord, mais enfin, je vais apprendre à personne sur ce plateau que sur un match, sur une finale, c'est faisable. Alors, il va falloir d'abord passer la DA, d'accord, et ce ne sera pas une mince affaire. Mais moi, j'ai envie de m'enthousiasmer, j'ai envie d'y croire, mais parce que j'ai aussi envie de croire que l'OM, non pas de par ses qualités, mais de par son ADN, de par aussi son public au match aller, de par un certain nombre de paramètres un peu irrationnels, a le droit d'y croire.
Si t'es en demi-finale et que t'y crois pas, faut changer.
Ouais, non, arrêter, je veux dire.
Autre chose.
À ce point-là de l'histoire. Et après, tu vas à Dublin et t'auras 35 000 Marseillais qui vont faire le déplacement pour la finale. Contre une équipe invincible.
Il y sera.
Oui, j'y serai.
Vous aviez cru que Saint-Etienne pouvait être en finale de Ligue Europa, explique-moi.
Pour être tout à fait franc, j'y vais avec Bernard Lyon et Vincent Duluc. Je leur ai vendu en disant, ça va être Liverpool Milan AC, les gars.
Ah ouais, vous avez
donc on a pris les billets d'avion, on a pris les billets.
Joli.
Et on va aller voir. Roma à Talence.
Ce qui est génial, c'est que les supporters de l'OM y croyaient, et puis après votre chute, là, beaucoup moins.
Heureusement qu'il y a Temple Bar. Non, mais c'est pas uniquement parce que j'y vais, c'est parce que réellement, je crois que cette équipe a un truc en Coupe d'Europe, un ADN, et voilà.
Ouais, ce que je peux vous dire, c'est que vous verrez ni Liverpool, ni l'AC Milan.
Même pas le match, je vais vous dire.
Léon, ça promet.
Voilà le programme.
Ça fait envie, ton programme.
On va repartir à Marseille. Il y en a un qui a vu le match de ce soir. Tout du moins, c'est déjà pas mal. C'est Marseille-Lens. On parlait donc de la finale de la Ligue Europa. Bon, notre cher Timothée est très, très confiant pour les Marseillais. J'ai l'impression qu'il les voit déjà en finale. Je ne sais pas sur quoi vous voulez intervenir, en fait. Je ne sais plus. J'ai perdu.
Carte blanche. Ça, c'est du lancement.
Carte blanche.
Ça, c'est super bien lancé.
Non, mais je suis encore perturbée de ce que nous a annoncé Timothée. Donc, excusez-moi. Vous vouliez intervenir sur quoi? Sur les chances de Marseille, c'est ça? Je sais pas.
Absolument pas. Je sais pas. On m'a demandé, mets-toi en place. Ils vont arriver. Donc, je sais pas du tout sur quoi vous voulez que je parle. Mais ce qui pour la finale de l'Europa League, moi, j'y crois pas. Je suis désolé. Je pense qu'ils vont se faire sortir par l'Atalanta Bergame. En revanche, sur la dynamique, sur le championnat d'être européen et d'être à la sixième place, moi, je vois bien l'Olympique de Marseille puisque je trouve que sur le calendrier, ils ont un peu d'avance. L'OL, je les vois pas battre le LOSC. Lors de la prochaine journée, et pour moi Lille sont très très difficiles à jouer, je vois pas l'Olympique Lyonnais s'imposer. C'était ric-rac encore aujourd'hui. Et puis Lens, je souscris totalement à ce qu'a dit pour le coup Dave Apadou. Je trouve qu'il y a un truc cassé dans cette équipe, il y a un ressort qui manque, il manque de créativité, il manque ce surplus d'énergie qu'il y a. Et puis je suis navré, mais il y a aussi le fait qu'Eli Wailly trouve pas sa place, quoi. Donc quand t'as une équipe où t'as le joueur qui est censé remplacer Openda, qui doit marquer des buts, qui marque pas, qui est sifflé une fois sur deux, qui est moins bien que ton milieu de terrain, et il y a personne qui prend le relais de Seko Fofana, et ben on voit bien que les deux cadres, et je pensais pas que c'était dans des proportions aussi importantes, manquent trop au Racing Club de Lens. Et dans les moments décisifs, quand on a vu ce qu'ont fait Openda et Fofana la saison passée, et ben je trouve que c'est les pions qui vont leur manquer.
Écoutez, on vous a écouté avec attention, Giovanni, mais Nabil m'a encore certifié. Retenez bien,
vous voyez
bien,
ma veste là,
oui.
Je l'ai déjà mise en jeu pour j'avais annoncé
Benfica.
J'avais annoncé OM Atalanta Bergame. En demi-finale, au moment où tout le monde disait que ça allait être Liverpool et tout ça.
Après le match retour,
dans le plus grand calme, ici, je vous dis que l'OM finit pas sixième. Dans le plus grand calme.
Septième.
Enfin, la place dont on parle depuis tout à l'heure. Et ça sera Lens. Et vous verrez.
Vous n'avez pas été convaincu par les
arguments.
Non,
les arguments sont très bons. Non, mais les arguments, ils tiennent la route sur la lecture de la saison de Lens.
Là, c'est ton flair qui parle.
Là, il y a un moment, faut se mouiller et faut sentir les choses. Et il y en a qui les sentent mieux que d'autres. Et j'en fais partie.
Celle-là, elle est pas mal. Et tu sais que c'est vrai en plus. Non, mais il a des intuitions.
Je lui rends hommage pour la double confrontation face au Benfica. Il l'avait dit.
Il l'avait dit aussi pour l'Atalanta.
Ça, je sais pas. Mais...
Je cherche pas ici à m'envoyer des fleurs.
Benfica aurait dû perdre devant Toulouse. Parce que moi, j'ai les deux matchs par hasard. Je vais dire sincèrement, parce que je regarde pas Toulouse.
Vous êtes tombé sur la chaîne.
Non, parce que je regarde pas Toulouse. Et moi, je me suis dit, Benfica est en grand danger. Parce que Toulouse doit être à la place de Benfica. Donc, c'est pas un magicien non plus de m'annoncer que.
Non, mais, non, mais au tirage au sort, que l'Atalanta va.
Non, non, mais c'est ce qu'il a dit.
Il a dit que l'Atalanta allait sortir Liverpool.
Non, non, je te parle de Benfica. Oui, mais pas de l'Atalanta.
Oui, mais attends, il avait annoncé la demi-finale.
Donc voilà, c'est comme ça. Non, mais je comprends que tu vives mal, mais je l'ai annoncé.
Tu sens bien le football pour l'Atalanta, mais Benfica, sois modeste. Il ne doit jamais passer Toulouse.
Il l'avait annoncé, en tout cas, Marseille s'est imposé 2-1 face à Lens. Et Marseille est donc en demi-finale de Ligue Europa face à la Talenta à la Bergame. On vous rappelle, journée spéciale jeudi pour cette demi-finale aller de Ligue Europa. Et nous aurons une journée spéciale PSG mercredi parce qu'il y aura une demi-finale aller de Ligue des Champions entre Dortmund et le PSG. On part tout de suite à Marseille à nouveau parce qu'il y a un homme en conférence de presse, c'est Francaise, après donc cette nouvelle défaite, 11e défaite de la saison. Pour Lens, on écoute Francaise.
C'est lui. Bah, quand vous perdez de cette manière-là, la 83e ou la 84e, bon, on va dire en offrant quand même cette possibilité de marquer, oui, évidemment des regrets. Mais ce n'est pas les regrets qui vont nous faire avancer. Ils ne vont pas nous faire avancer ce soir sur le très court terme. Mais voilà, ce que j'aurais demandé, c'est... Même si c'est facile pour personne, surtout pas pour les joueurs, pas pour personne, pour nous de notre côté en tout cas, de switcher et de préparer Lorient parce qu'on n'a pas le choix d'abord, parce que c'est l'avenir qui compte toujours le plus et le prochain match, et puis parce qu'on a notre destin entre les mains, même si on aurait pu le bonifier encore un peu plus ce soir quand même. C'est assez exact. C'est même, je trouve, complètement juste. On a rarement fait autant d'erreurs que cette saison que l'on paye. Et je discute avec personne de mon staff. Je leur dis qu'on va avoir une saison qui va être difficile jusqu'au bout. J'espère qu'elle sera difficile, mais avec une fin heureuse. Mais c'est notre saison. Il faut l'accepter comme ça. L'année dernière, on volait. Là, on vole, puis on a des loupés aussi. Mais quand on volait, on était ensemble. Et quand on a des loupés, on est ensemble. Et on va en tout cas se battre jusqu'au bout pour que même dans une saison difficile, on obtienne une belle récompense. Voilà, c'est même pas une erreur technique. Là. C'est une erreur de choix, je crois. Enfin, encore plus que l'erreur technique. Mais j'insiste, oui, parce que c'est juste la réalité, quoi. Le deuxième but, c'est pas un adversaire qui vous déséquilibre, quoi. C'est vous commencez à sortir le ballon, ça vient presser, évidemment que vous voyez bien nos sorties. C'est pas toujours des sorties courtes, donc c'est des sorties qui doivent s'adapter à ce qui se joue. Et quand vous rejouez là, bon, vous prenez un gros risque, quoi. Bon. Et c'est Massadio qui nous avait permis d'égaliser quelques minutes plus tôt grâce à un super centre. Mais c'est comme ça, voilà. Les uns derrière les autres, fait beaucoup d'erreurs cette année. Et ben on va, j'espère, continuer à être ensemble et on va en faire moins. Voilà, il en reste trois pour en faire moins. Et c'est ce que je souhaite, évidemment.
Francaise, après donc cette défaite, on le rappelle, Marseille qui s'est imposée dans les dernières minutes 2-1. Raymond, vous l'entraîneur, vous n'avez pas l'impression que Francaise est très abattu là ce soir ?
Non, pas du tout. Il parle de l'avenir, du match de Lorient. Il dit qu'il a remobilisé tout le monde. Il fait le constat amer que son équipe, cette année, multiplie les erreurs.
Moins bonne, quoi.
Comme il dit, voilà, que tout ce qui se passait bien l'année dernière, là, ça accroche. Et ils sont quand même sixième. Et ils peuvent encore être européens. Donc, il a trois matchs pour ça.
Destant,
remobiliser ses joueurs. Non, moi, au contraire, je trouve que il tape pas dessus. Il dit, on a eu des bons moments tous ensemble. Il y a des creux tous ensemble. Il nous reste trois matchs pour arriver à... une fin heureuse, malgré la difficulté de cette saison. Parce que depuis le début de la saison, moi je me souviens, j'étais à leur premier match à Brest, où ils menaient 2-0, où ils doivent marquer le troisième but.
Et
ils s'écroulent complètement.
Pendant 40 minutes, voilà, c'est le niveau de l'année dernière, voire mieux.
Et ils perdent 3-2. Voilà. Et la saison, elle bascule. Elle bascule là-dessus.
Eric, vous l'avez trouvé combatif.
Non, c'est pas ça, vous allez me corriger parce que... Pas la peine de suivi de A à Z, mais il y a eu quand même un changement dans l'organigramme. Je trouve que cette saison, il est sur la sellette. On en reparlera en fin de saison s'il ne se qualifie pas. C'est-à-dire que j'entends quand même, je lis qu'il pourrait aller ailleurs, des clubs étrangers.
C'est autre chose.
Lui-même, quelque part, il ne donne pas l'impression, peut-être je me trompe de loin, que ça soit l'entraîneur de sûr de demain, dans la continuité. Oui. Alors qu'on pensait, moi, sur la saison d'avant. Puis, il y a un type de l'organigramme qui est parti à Nice.
Gisolfi.
Voilà, bon. Un nouvel actionnaire est rentré. Je ne connais pas son nom. Il y a un nouvel actionnaire qui est rentré dans le club. Tout ça, je ne connais pas bien Lens. Mais je me dis quand même qu'ils sont sur une crête. Et si jamais ils ne se qualifient pas pour l'Europe, il y aura en fin de saison quelques bouleversements. Et lui, qui fait face, je pense quand même qu'il est beaucoup déstabilisé parce qu'il ne se voyait pas dans cette situation. Il pensait maîtriser certaines choses. Malheureusement, ses joueurs, certains, par des fautes stupides, de fatigue, de mauvais choix, lâchent un peu l'équipe et ils perdent des points, ils stagnent, ils n'avancent plus.
Lens 6e de Ligue 1, on le rappelle. Dans quelques instants, on va parler du PSG. Le PSG qui est titré après la défaite de Monaco ce soir. 12e titre de champion de France pour les Parisiens. On en parle dans quelques instants. À tout de suite. Nous sommes ensemble jusqu'à 12h30 avec une journée prolifique ce dimanche. À mes côtés, le président de l'équipe du soir, Raymond Domenech, Rico Blanco de la Plata, Eva Padou, Timothée Mémon qui se prépare à sa finale à Dublin et Nabil Djellit, et
tous les infos, évidemment,
avec Tanguy Le Séville. On vous rappelle que Marseille s'est imposé 2-1 face à Lens, dernier match de cette 31e journée. Dans quelques instants, on parlera de Paris. Paris sacré après la défaite de Monaco à Lyon. Jean-Louis Gasset. Oui, j'ai Jean-Louis Garcia en tête et je me disais, c'est pas le bon coach.
Non.
Mais c'est un entraîneur également qui a notamment entraîné Lens. Jean-Louis Gasset, on l'écoute tout de suite après donc cette victoire. Et Marseille qui est 7e au soir de cette 31e journée. Jean-Louis Gasset qui s'exprime donc après ce succès.
Michel.
Bonsoir Jean-Louis, bravo, parce que imaginons que celle-là elle fait vraiment, vraiment, vraiment du bien. Est-ce que vous avez hésité, nous de la tribune, on se disait, on pensait un petit peu à jeudi. Est-ce que vous avez hésité à sortir Veretout, Aubameyang qui, semble-t-il, était fatigué?
Non. Franchement, non. On pensait, je vous l'avais dit en conférence de presse, on pensait à gagner ce match. Après, si le destin il fait autrement, Murillo s'est peut-être blessé. Je le déplore parce que on n'a pas beaucoup d'effectifs à ce poste-là. En plus, Gigot est suspendu, donc ça va serrer, mais non, on avait dit qu'on jouerait le coup à fond en championnat. Donc, on peut pas se permettre ici de choisir une compétition par respect pour beaucoup de choses. Mais quand vous avez installé comme ça, il faut faire le maximum. Comme on avait fait mercredi, même à 10, on fait le maximum pour gagner. Après, si on est accroché, bon, tant pis. Oui, mais j'avais fait 3 changements. Klaus, c'était une obligation parce qu'il a joué 68 mercredi. Là, il a joué 75, il relève de 6 semaines d'arrêt. Je savais que Murillo était sur le fil, sur le grill, mais j'espérais. Mais là, j'espère que c'est pas grave, que... suite à l'opération qu'il a subie, c'est juste des adhérences qui ont pété et que ça va le faire.
Flo ? Ouais.
Jean-Louis, malgré la fatigue, en quoi cette victoire, on a vu quand même des visages radieux, même s'il y avait forcément vous avez tout donné, quoi. En quoi cette victoire, elle est positive en vue de jeudi ? Est-ce que ça crée un enthousiasme fort avant la demi-finale ? Allez.
C'était une répétition. L'Atalante joue un peu dans le système de Lens, à les mêmes caractéristiques, donc il fallait qu'on voit, même si on jouera différemment, il fallait qu'on sente un marquage derrière nous, du physique pour contrer, de la technique dans le milieu. Lens était l'adversaire idéal pour se préparer pour jeudi. Donc j'avais dit, il faut qu'on commence à se mettre dans la tête, mais c'est le championnat et on le fait pour prendre 3 points.
Jean-Louis. Louis Gasset, donc, après cette victoire 2-1, vous vouliez réagir effectivement au propos de l'entraîneur Marseillais.
Ce qu'il vient de dire, c'est qu'il est mariole, il va surtout pas jouer, pourtant les mêmes caractéristiques, il fait un parallèle à Talenta Lens, mais il jouera pas du tout de la même façon et de la même organisation. Il a déjà pensé, ils ont déjà travaillé le match en amont, même s'il préparait Lens. Non, c'est les propos au début, c'est que comme beaucoup d'entraîneurs aujourd'hui, on le voit, et je vais rien vous apprendre de toute façon, c'est que on gère énormément les temps de jeu. 68 minutes, 75, les retours de blessures. Aujourd'hui, les ordinateurs, ils font tout. Enfin, ils font beaucoup de choses. Et à une époque, ça n'existait pas, il y a 15, 20 ans. Aujourd'hui, on fait attention à tout. Et le PSG en est la preuve avec ce turnover incessant. Et tous les préparateurs physiques, je dirais, donnent des informations essentielles pour essayer d'éviter des blessures plus importantes ou grave. Et c'est rentré dans la normalité. Et même en rugby, c'est pareil, c'est la même chose. Tant de jeu, tant de jeu, tant de jeu.
Jean-Louis Gasset qui a fait ses premiers changements à la 65e minute. C'est un double changement. On le rappelle, Harit Ndiaye qui sort, Kondogbia et Sarr qui entraient en jeu. Timothée, Jean-Louis Gasset, c'est vrai qu'il est quand même dans une période galère. Il a des blessés. Il a un effectif qui est quand même très limité. Il a des joueurs qui ne sont pas inscrits pour la Coupe d'Europe. Il faut qu'il pense à tout ça avant le match de jeudi, avant cette réception de l'Atalanta Bergame.
Bah, Eric l'a dit avec justesse, ils font des calculs d'épicier à la minute près pour avoir des joueurs les plus prêts possibles, les moins fatigués possibles. Après, moi, j'aime et j'entends le discours proactif de dire, quand on est à Marseille, on ne doit pas choisir entre deux compétitions. Je vous cache pas qu'en venant ici, j'ai entendu sur une radio que forcément il fallait faire un choix quand on vise d'aller jouer l'Europe, il fallait faire un choix entre le championnat et la Coupe d'Europe. Pardon. On est encore dans ce paradigme-là en France de s'entendre dire, alors qu'une équipe est dans demi-finale, de s'entendre dire qu'il faut choisir entre l'Europe et le championnat. Bien sûr que non.
Bah, surtout que
il dit qu'il veut jouer les deux.
Il a raison. Bah, surtout qu'il prépare d'autant mieux le match qu'ils ont gagné. Non, moi, je pense que c'est...
Oui, il n'y a rien de mieux qu'une victoire.
Exactement, parce que là encore, c'est quelque chose qui nous revient très souvent. Nous, on n'a pas été coach, mais on entend Raymond et d'autres collègues ici sur le plateau dire que les joueurs récupèrent vachement mieux quand ils ont gagné. Et c'est in fine, c'est ça.
Donc les joueurs de Dortmund, ils vont moins bien, je vous le confirme.
Bah, exactement, voilà, ils en ont pris une belle. Je suis pas sûr que ça les ait beaucoup aidés de se faire exploser par Leipzig. Je veux dire, tu prépares pas mieux ton match comme ça. Là, moi, je pense qu'ils sont portés par quelque chose. Bien sûr, le rapport de force, il est ce qu'il est. Mais je crois qu'ils arrivent finalement au mieux de ce qu'ils peuvent. Là.
Marseille qui donc recevra l'Atalanta à Bergame en ayant gagné son dernier match de championnat. Dans quelques instants, on se retrouve pour la suite de l'équipe du soir. Paris, champion après 31 journées. On se demandera si c'est plus un sacre de Luis Enrique ou plus un sacre de Kylian Mbappé. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. On est ensemble jusqu'à minuit 30 avec toute la bande. Il y a de la pression sur ce plateau de l'équipe du soir avec le président Raymond Domenech, avec Eric.
Il y en a qui sentent le foot et le basket.
Exactement.
Et il y en a qui sont pas bien du tout.
Avec le professeur Dave Apadou, avec Timothée Mémon et avec Nabil. Ça va pas? Je vous sens tendu.
Ouais, je suis un peu inquiet là.
Qu'est-ce qui se passe?
Je peux pas en dire plus.
Il y a une inquiétude.
Je suis sur une dimension parallèle. Je suis aux États-Unis en même temps. Et voilà quoi.
Dis donc, vous êtes un homme surprenant, mon cher.
Il est dans le Texas.
Ne vous inquiétez pas.
Là, je suis dans le Texas et mon équipe, c'est pas des Rangers. Si vous voyez,
James Harden a des problèmes, peut-être.
James Harden est en difficulté. Le
Nabil Jelit aime le foot, mais aussi le basket. Et malheureusement pour lui, il aime James Harden. Donc, il vit des moments parfois compliqués.
Ah,
on va revenir au foot.
Ouais,
beaucoup de souffrance. Il y a des hommes qui ont souffert cet après-midi. C'est les Monégasques. Mais il y a des hommes qui ont été heureux, comme Raymond Domenech, parce que Lyon a renversé Monaco. Et avec ce succès lyonnais et donc cette non-victoire monégasque, eh bien, le PSG est titré pour la 12e fois de son histoire en tant que champion de France.
Oui, pourtant, Monaco avait réussi à ouvrir le score. Hein, pensait une nouvelle fois gâcher la fête des Parisiens. C'est Ben Yedder qui marque après 22 secondes de jeu. Égalisation rapide et facile d'Alexandre Lacazette à la 22e minute. Quelques instants plus tard, Saïd Benrahma va donner l'avantage aux Lyonnais sur cette belle frappe. Mais Ben Yedder, encore lui, va réussir de nouveau à égaliser. Et finalement, en fin de match, c'est Malik Fofana qui va donner la victoire à l'Olympique lyonnais, qui offre donc dans le même temps le 12e titre de champion de France de son histoire au Paris Saint-Germain. C'est le 50e trophée de l'histoire du Paris Saint-Germain.
Et oui, bravo donc aux Parisiens qui avaient fait match nul hier contre le AS 3-3. Mais Monaco, qui n'a pas gagné, c'est donc un nouveau titre pour les Parisiens. Le timing, il est parfait, Dave, juste avant d'aller défier Dortmund en Allemagne.
Job done. Non, mais c'est vrai. Alors après, le timing est parfait. Ce qui est peut-être dommage pour les supporters parisiens, j'espère qu'ils ne sont pas blasés, mais du coup, il n'y aura pas de festivité tout de suite. Il va falloir attendre la double confrontation. Ouais, c'est ça. C'est fou parce qu'on parle.
Mais on savait qu'on n'aurait pas non plus hier, même s'ils avaient gagné.
Exactement, voilà.
Timing, ils font 3-3 contre. Non, 2-2. 3-3.
3-3.
3-3 contre le Havre.
Bah oui, mais bon.
Le timing, il est parfait.
Bah, les Lyonnais ont fait le boulot.
Est-ce qu'on est rassurés ? Oui, c'est grâce aux Lyonnais qu'ils sont champions.
Bah oui, mais.
C'est-à-dire, eux, ils attendaient, ils devaient fêter ça. Merci. Ouais, ils doivent dire merci aux Lyonnais. Non, mais on ne peut pas dire que le timing, il est.
Eh bien, ne le dites pas, dites ce que vous voulez, mon cher.
Ils sont champions. En faisant match nul 3-3 chez eux, parce que Lyon bat.
Ils sont menés 3-1, ils
Lyon,
font 3-3.
Lyon bat Monaco. Heureusement, mais au départ, qui pouvait imaginer qu'ils jouent le titre, ils jouent la fête chez eux. Je veux dire, c'est un match exceptionnel, c'est quelque chose de particulier. Et ils sont menés 3-1 contre le Havre chez eux. Et posons-nous plutôt ces questions-là, plutôt que de dire c'est le timing parfait pour préparer le match de Coupe d'Europe.
Donc ils ne l'ont pas bien préparé.
Jusqu'à présent, s'il a fait ce qu'il a fait là, il a fait tourner pour que tout le monde soit prêt pour faire le choix pour ces deux matchs-là. Est-ce que ça sera suffisant pour ces deux matchs-là? Je pose encore la question, on verra après.
On va parler de Dortmund après, mais le principal quand même, c'est que le PSG est champion pour la 12e fois de son histoire au niveau national. C'est une information importante. On a peut-être aussi tendance à banaliser ces titres nationaux.
Oui, mais on banalise ces titres. Enfin, malheureusement, moi, c'est la sensation que j'ai quand je parle aux fans du Paris Saint-Germain et aux supporters, c'est que tout est pris par le prisme de la Ligue des Champions et depuis trop longtemps. Et que finalement, nous, autour de cette table, personne banalise un titre. C'est très dur de gagner un titre.
En France, non.
J'en ai parlé avec Christophe Galtier. Tous les titres sont durs à gagner. Mais... Le fait est que cette équipe court après la Ligue des Champions et que finalement, le titre ne suffit plus au bonheur, que le seul et unique bonheur serait la Coupe d'Europe.
C'est pas que ça, c'est que le rapport de force est tellement disproportionné et c'est un cas unique en Europe. C'est-à-dire que quand on rivale
12 points d'avance sur Monaco, deuxième.
Mais ce que je veux dire, c'est que le rapport de force économique, cet écart économique n'existe dans aucun championnat. C'est une équipe hors sol en Ligue 1.
Quand le Bayern gagne pendant 12 années consécutives, c'est qu'il y a un écart important aussi.
Il n'y a pas le même écart. C'est-à-dire que son rival, c'est Dortmund, qui est une équipe qui fait des finales européennes, qui fait des demi d'écart. Ton rival essentiellement c'est Brest, c'est Nice, tu vois ce que je veux dire.
Le Bayern
c'est
pas venir.
Ouais, mais c'est ces discours-là qui blasent le plaisir d'un supporter.
Mais c'est pas moi qui suis blasé, ce sont les joueurs eux-mêmes.
Oui, mais quand t'es supporter, t'es pas là pour être comptable.
Mais c'est pas ça.
T'es là pour kiffer.
Mais non,
ton équipe est championne, tu kiffes.
Et bah oui, mais sauf que
je trouve que les Parisiens sont malheureusement trop privés de ça.
Si tu discutes avec les supporters, faut être honnête 2 secondes. C'est quand tu discutes avec les supporters. Moi, il y a plein d'années où les supporters, un titre, ouais, so what. C'est limite un minimum syndical. Et c'est normal.
Mais parce qu'on leur a expliqué que c'était normal.
Mais c'est pas parce qu'on leur a expliqué, parce c'est parce qu'ils sont pas aveugles. Ils le voient bien que le rapport de force entre Paris et les autres est trop
peu. Il y a un homme qui était, j'imagine, content de ce 12e titre, c'est Nasser El Khelaifi, rassurez-moi.
Oui, bien sûr. Il s'est exprimé, le président du Paris Saint-Germain. Félicitations à tous les joueurs, à notre entraîneur, Luis Enrique, et à son staff, à Luis Campos et à son département aussi, qu'à tous les membres du club. Depuis le début de la saison, l'équipe est tellement collective et unis, je n'oublie pas les supporters qui ont été extraordinaires, quel que soit le résultat.
Et on rappelle quand même des chiffres importants, Nabil, et je viens vers vous. Donc, après 31 journées, le PSG est champion, 12e titre. Il y a 20 victoires, 10 nuls, une seule défaite. Alors, c'est peut-être ça le couac. Ils sont pas réussi à être invincibles sur toute la saison. Contre Nice, 76 buts marqués, 29 encaissés. Les standards sont quand même pas mal.
Mais les standards, ils sont pas mal dans un championnat où... Il y a des équipes qui ne sont pas au rendez-vous.
Déjà,
ils ont un rapport de force disproportionné. Et en plus, ceux qui sont censés faire semblant, faire le match, ils ne sont même pas là. Je veux dire, évidemment qu'on ne peut pas banaliser un titre. Évidemment qu'il y a du travail. Évidemment qu'il y a des joueurs de talent qui offrent un spectacle, un divertissement. Mais à un moment, il faut arrêter de faire semblant. Je veux dire, qu'est-ce qu'on a fait ce soir? On a parlé de la course au maintien très vite. En cours de saison, on se fixe sur qui va se qualifier en Europe. Et qui va se maintenir ou pas? Le titre de champion, il est complètement plié. Alors, on peut faire la comparaison éventuellement avec le Bayern et la Juve. Mais le Bayern et la Juve, eux, ils ne font pas venir Messi, ils ne font pas venir Neymar. Il y a un côté quand même qui est complètement disproportionné. Après, vous pouvez faire semblant d'être content, mais une fois, deux fois, trois fois, mais au bout de 10 fois, c'est quoi l'intérêt du truc?
12 fois.
Bah, c'est quoi l'intérêt du truc? Moi, personnellement... Je me satisferais pas de ça, quoi. Je me dirais vivement que les autres reviennent un peu, ou alors Ou alors que je fasse semblant d'être un peu moins
Timothée, fort. On va essayer d'avancer un petit peu, parce que ce titre, de toute façon, est unique pour une raison. Déjà, c'est le premier titre de champion de France de Luis Enrique, et dans le même temps, c'est le dernier titre de champion de France de Kylian Mbappé, parce que vous le savez, il va partir. Alors, on s'est posé cette question. Est-ce que vous retenez plutôt le côté Luis Enrique, ou plutôt le fait que ça soit le dernier titre de champion de France de Kylian Mbappé? Eh ben, vous savez quoi? Quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord, mon cher.
Bah, allons-y, alors. Machin, là.
Ça s'appelle un super duel. Machin, c'est un super duel. Mbappé pour Timothée Mémon et Dev. Et il y a le clan de l'Espagnol avec Eric et Nabil.
On est des gladiateurs.
Vous voulez entendre quels arguments en priorité? Qui commence?
Ceux pour Enrique.
Enrique, on va commencer avec vous. Vous êtes un petit peu l'Espagnol dans l'âme, l'amoureux du Barça. Eric, pour vous, vous retenez ce premier titre donc, de champion de France de Luis Enrique qui est arrivé l'été dernier à Paris. C'est à vous.
Je veux dire, le foot, c'est comme l'amour. Tu te souviens plus la première fois que de la sixième. Après, pour dire ça, pourquoi je dis Enrique? Parce que c'est la première fois qu'il gagne un trophée. Mbappé, la sixième fois, sept. Il y en a qui ont plus que lui, comme Marquinhos ou d'autres joueurs. Il y a une différence économique qui est énorme. Toi, tu dis que c'est une réussite. 69 buts. Non, c'est pas une réussite. Mbappé, aujourd'hui, il est à 24 buts. C'est peu en championnat. Il est à 40, 43, 45. Et il est deuxième passeur décisif avec 7 passes derrière Dembélé. Donc, pour moi, ils ont perdu peut-être qu'une fois. Mais ils ont fait beaucoup de matchs nuls. Et ça n'a pas toujours été quelque chose d'extraordinaire du côté non plus d'Mbappé.
Dev, c'est à vous.
Ce sera à Timothée.
Ah, Timothée, c'est à vous.
Non, ouais, non mais pour moi, quand on m'a posé cette question, ça posait un peu la question de l'importance de ces deux hommes avec le Paris Saint-Germain. Et c'est pour ça que j'ai choisi Mbappé. C'est-à-dire que Luis Enrique, je ne sais pas ce que sera son histoire avec le Paris Saint-Germain. Je sais ce que sont les prémices cette saison. Alors que Mbappé, il a donné, il a prouvé. Mbappé, on dira ce qu'on veut. Aujourd'hui, on n'a pas le recul. Mais ce sera probablement le plus grand joueur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Avec des rails, avec des sous-dits. Mais quand on aura du recul, on se dira ça. Et donc, je suis plus intéressé par la fin d'un monstre que par l'éclosion de quelqu'un qui aura certainement son importance dans l'histoire du club.
Nabil, vous mettez l'accent sur Luis Enrique.
Ouais, le sujet, ce n'est pas l'héritage d'Mbappé. On aura le temps de le faire. Pour moi, c'est l'avènement d'un coach. La star cette saison, le grand vainqueur, c'est Luis Enrique. C'est Luis Enrique parce qu'il a repris un groupe, une nouvelle équipe. Alors, tout n'a pas été effectivement parfait, mais on a une patte, un jeu identifié. Alors, on peut toujours le critiquer, mais on sait que c'est l'équipe de Luis Enrique. Et moi, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire la deuxième saison. Mbappé n'est déjà plus là.
C'est fini, Dev.
Oui, en fait, Luis Enrique fait exactement ce que tous les coachs à Paris ont fait, c'est-à-dire d'être champion. On l'a dit, c'est une banalité. Même ceux dont on ne veut pas se souvenir, comme Pochettino, bah, ils ont gagné parce que c'est un minimum syndical. Par contre, l'œuvre de Mbappé, elle est colossale. Je sais qu'en ce moment, c'est pas très tendance de dire ça, mais ce joueur-là a marqué ce club-là dans des proportions qu'on imagine à peine. Et Luis Enrique, on ne sait pas ce que ce sera. Pour l'instant, cette première saison, elle est pas mal, sans plus en championnat. Il est dans les moyennes, il n'est pas au-dessus ni en dessous. Mbappé, c'est au-dessus de tout.
C'est fini, Dave. Vous avez entendu les arguments des deux côtés, mon cher président. Vous allez devoir trancher. Est-ce que vous retenez donc ce premier sac de Luis Enrique ou le sixième et donc dernier sac en Ligue 1 de qui?
On n'en est pas sûr.
Écoutez, a priori, oui.
Bah, il peut revenir à 34 ans.
C'est vrai, t'as raison.
Ah oui, enfin, oui. Non, bah,
sur cette séquence,
c'est le dernier, mais non.
Non, mais sur cette séquence-là.
Sur cette séquence, oui, cette séquence, mais voilà, c'est peut-être pas le dernier.
Ah non, mais peut-être qu'il reviendra. Là, c'est...
Il conteste un peu votre autorité.
Je ne dire jamais.
Bah, sur cette séquence, c'est la fin.
Moi, c'est pas le sacre de Mbappé que je retiens. C'est en fait, c'est le départ d'un des grands joueurs du PSG. On sait qu'il va s'en aller. C'est quelque chose qui a marqué l'histoire. Pendant des années. Luis Enrique, c'est bien, c'est un début. Mais je suis d'accord avec Deb. Tous les autres ont commencé comme ça. Attendons, il y a déjà
Borussia. Ils ont commencé en mettant Mbappé sur le banc? Je te pose la question.
Non, ils n'ont jamais eu la situation d'Mbappé qui avait dit qu'il s'en allait. Mais il était là, il était titulaire, indiscutable.
Vous laissez le président s'exprimer, vous avez eu 30 secondes.
Moi, je n'ai pas eu 30 secondes.
Ah ben, il fallait voir avec votre collègue.
Mais il nous a donné le point, Raymond.
Ah, tu as donné le point?
Non, non. Si, il a dit, je ne retiens pas Mbappé, son départ.
Non, mais il ne retient pas Enrique non plus.
J'ai l'impression qu'il est sur un match nul.
Pas du tout.
Non. Je suis, je veux dire, pour moi, cette fin de saison, c'est la fin d'Mbappé.
Voilà, merci.
C'est l'histoire du PSG qui se tourne et qui se construit d'une autre manière avec Enrique, je suis d'accord, qui est moins dans le tape à l'œil, qui est plus dans le collectif, qui peut amener
c'est
autre chose.
C'est pas un événement,
chose.
Ça, au PSG.
Mais ça,
c'est pas grand-chose.
Laissez
c'est
le président chose, terminer.
Mais
il est en difficulté, marques, Nabil. Non,
tu peux pas
côté Texas.
C'est l'histoire, tu dois reconnaître, ce que c'est l'histoire d'un club. Et quand tu as eu un joueur comme ça dans un club, ça marque. Et tu peux pas te dire, bon, moi, il s'en va, on passe à autre chose, un autre. Il a marqué une époque, il a été phénoménal.
Président, donc le point, on est bien d'accord, est à Timothée et Dev.
Bah, un homme qui a le sens de l'histoire. Et ouais, moi, j'en attendais pas moins du président.
Le sens des racines, c'est quand même des racines d'un club.
On répond pas au départ d'un
club. Non, mais il répond à l'héritage.
Le premier titre d'Enrique et le sixième.
Mais il retient Mbappé.
Moi, je retiens
son départ. Pose la question, vous retenez son départ ou le premier d'Enrique? On va tous être d'accord.
Parce que c'est le sixième, c'est le dernier.
C'est le dernier. Le départ,
c'est
le dernier.
On ne remet pas.
Vous êtes en difficulté.
Mais non.
Le choix du président, vous le savez très bien. 26 buts en 28 c'est matchs ça, de Ligue 1 pour Kylian Mbappé. Après, pour ceux qui disaient
24.
Louis Sen... Non, 26, à moins que j'ai mal compté.
Moi, j'ai vu 24.
Moi, j'ai vu 26.
26, sans importe.
C'est bien 26. Allez.
Voilà, voilà. Voilà. Vous avez voulu minorer l'œuvre de Mbappé.
Vous êtes
et prison. Ouais, voilà. Allez, c'est pas possible, on perd du temps. Sur Kiki, il est donc avec des standards incroyables, 26 buts en 28 matchs de Ligue 1. Et pourtant, on n'a pas l'impression qu'en Ligue 1 notamment, il fasse une saison de dingue.
Non, c'est vrai. Vas-y.
Je t'en prie. Non, mais parce qu'on s'est habitué à l'exceptionnel. C'est tout. Si c'était n'importe qui d'autre qui mettait 26 buts, on serait à
ses pieds. C'est pas Brandao, Mbappé.
Et on lui baiserait les pieds. Ça reste une saison exceptionnelle de marquer 26 buts. Encore une fois, je pense qu'on manque de recul.
T'es en prison, toi.
Parce que ce club a une vision, un prisme qui est particulier. Et je ne reprendrai pas l'argument trivial d'Éric, mais effectivement, en termes d'amour, on se souvient plus souvent de la première fois que de la sixième, mais quand c'est la sixième, il y a des chances que ce soit la femme de ta vie. Il y a plus de chances que ce soit la femme de ta vie.
Mais ça arrive aussi. Je ne ferai aucune métaphore de ce type, là, mon
frère. Oui, je vais laisser ça de côté aussi.
Mais c'est la réalité, malheureusement.
Merci beaucoup.
C'est dur ensuite d'enchaîner.
Non, mais ce qui est terrible, au-delà de ce débat, après, chacun retient ce qu'il veut, finalement, au fond, c'est un peu subjectif tout ça. Mais au-delà de ce débat, le fait de poser cette question, et moi je trouve que finalement c'est terrible, c'est que cette saison de Mbappé avec ce bras de fer au début, qui lui a valu le loft, derrière restera pas, alors presque avec une utilisation presque abusive, je veux dire contre Revel, je rappelle qu'il jouait 90 minutes, et que Luis Enrique disait quand Kylian Mbappé veut jouer, on a juste à le regarder. Et ensuite, à partir du moment où il décide... Derrière, il y a un changement de gestion absolu. Mais tout ça a fini par user un peu le public qui finit par se dire... Alors, je ne sais pas si je résume la pensée de tout le monde, mais quand même, une partie de l'opinion, et on l'a vu dans certains débats qu'on a fait ici, limite, bon débarras. Et moi, je trouve ça terrible, en fait. Je trouve ça terrible que finalement, on retienne les derniers épisodes qui ont été un peu compliqués plutôt qu'une œuvre, moi, que je trouve colossale.
Alors que l'histoire a commencé en 2017, on le rappelle. On aura tout le temps de parler du PSG, on vous le rappelle. Jeudi, c'est journée spéciale pour Marseille. Et mercredi, journée spéciale Ligue des Champions avec cette demi-finale aller entre Dortmund et le PSG. Et jeudi, donc, ça sera journée spéciale également de Ligue Europa entre Marseille et l'Atalanta Bergame. On va enchaîner et on va revenir sur ce match absolument de dingue. Il fallait être absolument à Rennes cet après-midi. Il y a eu 9 buts entre les Rennais et les Brestois. Et c'est Brest qui l'emporte.
Derby breton de folie au Rosen Park. Les Brestois étaient menés 2-0 face au Rennais avant de reprendre les commandes du match en deuxième période grâce à Madi Camara qui inscrit notamment le but du 4-2. Arthur Théâtre va réduire l'écart avec cette magnifique frappe. Bourigeau sur coup franc va trouver Martin Terrier qui dévie devant Marco Bizot. Ça fait 4 partout et en toute fin de match, c'est Lilian Brassier qui offre la victoire aux Brestois sur ce coup franc de Mathias Pereira-Lage. La victoire pour les Tizèf. Brest est 3e de Ligue 1.
Et oui, on ne sait pas si cet homme aura une statue devant le stade de Brest, mais en tout cas, il est forcément très heureux. C'est Éric Roy, l'entraîneur brestois. On le rappelle, les Bretons vont jouer la Coupe d'Europe pour la première fois de leur histoire. On écoute Éric Roy.
L'année dernière, à 3 matchs de la fin, je crois qu'on obtenait un maintien. Aujourd'hui, à 3 matchs de la fin, un an après, 12 mois plus tard, on obtient une place qualificative pour la Coupe d'Europe, pour le stade brestois. Je pense que le chemin parcouru en un an, il est assez incroyable et qu'il ne faut pas banaliser ça.
C'est absolument incroyable. Timothée, si on est dégoûté du foot, quand on voit une histoire comme Brest,
pas l'équipe, là.
On aime à nouveau le foot.
pas dégoûté du foot.
Non, mais je veux dire, si parfois le foot nous déçoit. Non, mais
je suis d'accord.
C'est magnifique comme histoire, c'est exceptionnel.
Ça rabiboche un peu, c'est un peu ce qu'on a pu ressentir parfois avec Lens la saison dernière. De toute façon, c'est très latin, c'est très français, en tout cas, d'aimer l'histoire de David contre Goliath, du petit pousset, pour quand en Coupe de France, on supporte toujours le petit.
Mais c'est le
gros
jeu aussi qui est.
Mais c'est aussi le beau jeu, c'est aussi la réussite de cet entraîneur. Non, l'histoire, elle est absolument magnifique. Il y a rien à redire là-dessus. Et il y a même, je trouve, quelque chose de magique dans le but de Brassier. On a l'impression qu'il est déjà en l'air, alors qu'on ne sait pas que le ballon va être là. Il y a des trucs un peu déments. C'est splendide. Merveilleux. Fabuleux. Oui.
Là, on parle d'un entraîneur. Un entraîneur français qui n'avait plus entraîné depuis 10 ans. Depuis janvier 2020. Attendez, on est en quelle année là ? Janvier 2023, il est arrivé.
Oui, c'était 11 ans.
En janvier 2023. Ouais. Et depuis, c'est absolument incroyable. Il sauve les Brestois de la relégation et il les emmène jusqu'en Coupe d'Europe. Ils sont troisième avec 16 victoires en 31 journées.
Ah non, ce qu'il a réussi à faire est exceptionnel, d'autant plus qu'il est arrivé sans adjoint. Il n'est pas arrivé avec une écurie comme font les entraîneurs étrangers qui arrivent et qui prennent 10 personnes. Il a gardé les gens qui étaient en place, il a travaillé avec eux, il a gardé les joueurs qui étaient en place et il les a transformés. C'est ça qui est extraordinaire, parce qu'ils n'ont pas fait des recrutements fabuleux, mais il a restructuré son équipe, il a redonné confiance à tout le monde, ce qui prouve que, je veux dire, c'est comme l'avait dit Courbis une fois, quoi, être entraîneur, c'est comme le vélo, une fois qu'on sait, ça se perd pas. Et Eric, il n'avait pas entraîné pendant 10 ans, mais il était toujours dans le football, dans la gestion.
Il avait été manager général.
Il était manager, voilà. Donc il y a d'autres fonctions. Et il a su amener ça. Mais il a amené cette sérénité, cette confiance aux joueurs qui fait ce qu'on voit sur le terrain. Quand ils sont menés, ils jouent toujours de la même manière. Ça joue, ça provoque, ça va de l'avant. Et oui, c'est vrai que ça ressemble un petit peu à ce qu'on avait vu avec Lens l'année dernière, qui était plaisant à voir jouer. Ouais. Mais je trouve que même... Oui, parce qu'eux, ils n'ont pas d'individualité. L'année dernière, il y avait 2-3 individualités à Lens qui faisaient un peu la différence.
Moi, je trouve que le parallèle, il a quand même une grosse limite. Parce que Lens, c'était quelque chose qu'on voyait venir un peu progressivement. Ouais, exactement. Oui. Après, ils réussissent la saison qu'ils réussissent. Voilà. Ils jouent le maintien, donc vous l'avez dit.
Lens, il y a 3 ans, ils montent. Ils montent parce qu'il y a le Covid.
Bien sûr. On arrête le championnat. Chaque année, à partir du moment où ils étaient en Ligue 1, ils étaient en première partie de tableau.
Et ils rataient l'Europe de
Voilà. Et ils étaient très proches, ils étaient candidats à l'Europe. Bref, c'est pas du tout le cas. C'était une équipe qui était qui jouait le maintien quand Eric Roy les reprend. Et quand ils attaquent l'été dernier, tu l'as dit, ils n'ont pas fait de recrutement. Je pense qu'ils ont dû recruter pour 500 000 balles ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est-à-dire,
ils ont été bons, ils ont été malins.
Et ils s'apprêtent à jouer le maintien encore. C'est-à-dire que eux, quand leur discours, moi j'ai un peu relu les entretiens, c'est ils doivent jouer le maintien. Et donc il y a ce premier match contre Lens complètement rocambolesque pour le coup et renversant. Et ils font la saison qu'ils font. Mais simplement, je trouve que là où Lens est adossé quand même à des moyens, à une structure, un stade, un public, etc., je trouve que Brest, on est quand même dans le truc artisanal.
Brest, c'est une équipe qui joue très bien. Ce qui est important aussi de rappeler, c'est 49 buts marqués. C'est la troisième meilleure attaque de Ligue 1. C'est pas une équipe
20 de moins que le PSG.
Oui, mais on s'en fout là du PSG. C'est pas une équipe qui bétonne. C'est une équipe qui, aujourd'hui, est menée 2-0, gagne 4-2, et revient 4-4, et ça fait 5-4.
Moi, je les vois pas souvent jouer. Et malheureusement, j'ai vu le match le week-end dernier.
Contre Monaco.
Troisième contre Monaco, ils l'ont raté. Les Smilou jouaient pas. C'est le créatif. Est-ce que parce qu'il revient, ils arrivent à marquer des buts? J'en sais rien. Mais tout ce que je sais, c'est Eric Roy. C'est que c'est un type, j'ai suivi quand même son parcours. Quand il est allé à Nice, il était directeur sportif, j'en sais rien, pas totalement entraîneur, mais il a fait des
super... Il a été entraîneur aussi.
Il a même joué à Nice. Pour moi, il a fait des super choses. Et il a été débarqué. Et on l'a critiqué. Et le milieu l'a critiqué. L'a taillé, mais grave de chez grave. Et je suis très content pour lui, parce que moi, j'ai toujours compris ce qu'il voulait dire quand il parlait de football. Il a les idées assez claires, même si je suis pas à toutes ses conférences de presse. Et il mérite vraiment qu'on le salue, parce que lui, il en a avalé, hein.
Mais bien sûr, on l'embrasse, Eric Roy, c'est un mec génial. Bravo à Eric Roy, bravo à tous les Brestois.
C'est le coach
qui sont...
de l'année, moi, je pense.
Ah bah oui, non, là, il n'y a pas photo.
Je pense que
c'est NFP. Le vote doit se faire, ne le faites pas avant.
Oui, on a du mal à imaginer le titre. Et on a vu des très belles images, parce qu'on le rappelle, donc il y avait ce match entre Rennes et Brest, et les Brestois sont rentrés à la maison, c'était magnifique. On va aussi écouter deux hommes qui sont sur un petit nuage.
Qui sont géniaux aussi, Hugo Bonietti et Lilian Brassier. Évidemment, très heureux de cette qualification européenne. On les a retrouvés à l'issue du match et de cette victoire dans le derby face à Rennes.
On pouvait que se qualifier sur un match comme ça, parce que voilà, on a une équipe de fous et le match l'a prouvé, c'est carrément notre identité, c'est jamais relâcher et être fou jusqu'à la dernière seconde, et c'est ce qui a marché.
Saison de malade, match de malade. J'ai pas encore vraiment réalisé, je pense. On l'a fêté, mais je pense que quand je vais discuter avec ma famille et mes proches ce soir, bah, c'est là que je vais dire putain, on l'a fait les gars.
La joie des joueurs du stade brestois. On va les retrouver justement dans le vestiaire. Ils se sont bien amusés, les Brestois.
Vous savez, moi en fait, je suis assez frappé dans une période où on adule les entraîneurs qui innovent, qui font des choses compliquées. Je trouve que Éric Roy et le fonctionnement brestois me fait penser à cette phrase de Jim Rohn qui disait « C'est pas là pour réussir, il ne faut pas faire des choses extraordinaires, il faut faire des choses ordinaires, extraordinairement bien. » Et c'est exactement ce qu'il fait.
Très bien.
Citation. Nabil, vous voulez enchaîner,
c'est toujours mais dur de passer après.
Là, il vient te remettre un coup derrière.
C'est comme Boubka, quoi. Il met la barre à 6-14, ensuite à 6-15.
Mais il y a eu du Duplantis de Vives qui n'était pas.
Oui, mais Boubka, c'est comme Rocky, quoi. C'est dans ma tête. Oui.
Ben, vous êtes mon Duplantis à moi. Allez-y.
D'accord, je ne vais pas planter le truc.
Pas trop, il n'y a pas de matelas. Hein.
Je sais, ouais. Fais gaffe, sauf à l'Atlético, bon, bref. Non, moi, ce qui me... Parce que l'année dernière, je regardais à peu près tous les matchs de Brest pour des raisons qui me sont personnelles.
Oui, il y avait un petit joueur.
Je peux pas en dire plus.
Il n'a pas marqué les esprits à Brest.
Il y en avait deux, même. Mais
là, il lit.
Non, mais ce qui est remarquable, sur quoi on juge un entraîneur? On peut le juger sur les résultats. Mais moi, ce que je trouve remarquable, c'est la progression des joueurs. Parce qu'en fait, il y a des joueurs que... Je regardais l'année dernière, mais ils sont méconnaissables. C'est-à-dire, une telle métamorphose... Ouais. Je sais pas, je me l'explique pas. Enfin, alors on peut me dire le travail, l'état d'esprit, mais moi j'aimerais bien qu'ils viennent et qu'ils nous expliquent au moment où ils récupèrent l'équipe s'ils pensaient que de tels joueurs
pouvaient
arriver. Ouais. C'est pas manquer de respect ni de quoi que ce soit.
Bah non, mais passer.
Non mais ils étaient frileux à 10 contre 11, ils étaient en supériorité numérique, ils étaient frileux. Là, ils dominent des équipes qui sont parmi les meilleures équipes du championnat.
Non, ils gagnent ces mêmes joueurs. Contre 11, souvenez-vous, contre Marseille.
Donc, moi, c'est vraiment ce qui m'intéresserait, c'est de savoir comment il a fait upgrader un nombre de joueurs aussi important. Voilà, c'était juste ce que je voulais dire.
C'était mieux, quand même, ce qu'il avait dit. Ah, ouais, okay.
Non, mais peut-être toi, tu sais, Raymond, je ne sais pas comment on fait. Mais je ne sais pas comment on fait, quoi.
Juste la confiance, la sérénité et la confiance. Parce que tu ne les fais pas travailler différemment, ils travaillent, les séances... Tu peux pas faire de miracle quand tu fais tes séances. Mais pour qu'ils aient envie de tenter des choses, il faut qu'ils aient confiance en eux et aux autres. Et à partir de là, tout ça s'enchaîne. On reprend toujours ce premier match de Lens.
Dans ces proportions-là,
c'est quand même extraordinaire. Qui passe de 2-0 à 3-2 et qui gagne, tout d'un coup, ce qu'on peut leur dire et leur amener, cette sérénité, cette tranquillité, elle se manifeste sur le terrain. Donc tu y crois de plus en plus. Tu dis c'est vrai. Et ben finalement pourquoi on serait
et Lens ça les plombe
avec les autres.
Parce que Lens ils l'ont payé longtemps ce match-là.
Et là où c'est fort, c'est moi pour moi Brest c'est presque le Bayer Leverkusen. Non mais donc ou Leicester quand ils gagnent le titre de champion d'Angleterre tout le monde se dit ça va pas tenir. Et tu l'entends ce discours-là. Et finalement ça tient et mieux encore.
Faudrait pas qu'ils soient quatrième parce que là, ça c'est peut-être la pire place. Quand même.
En tout cas, ils sont troisième avec un point d'avance sur Lille. On va tout de suite passer au minuit info avec vous, Tanguy. On l'a dit, il y a eu énormément de buts lors de cette 31e journée de Ligue 1. On va revoir ce qui s'est passé en clôture. Donc, c'est Marseille qui s'est imposé contre Lens 2-1.
40 buts au total sur cette journée de Ligue 1. 3 ce soir à l'Orange Vélodrome et 2 en faveur de l'Olympique de Marseille. Le premier de cette soirée est l'œuvre de Pierre-Emerick Aubameyang, bien trouvé par Eliman Ndiaye. Les Lensois vont réussir à égaliser en deuxième période grâce à Wesley Saïd, bien trouvé par Massadio Aïdara. On va le retrouver, Massadio Aïdara, l'ancien. Fautif sur ce coup-là. Le relais avec Aubameyang et c'est finalement Pape Gueye qui offre la victoire à l'OM. L'OM est septième de Ligue 1 à 2 points de Lens.
Et Tanguy, il y a également un très joli cadeau à gagner pour les supporters marseillais.
Oui, ça se passe sur les réseaux sociaux de l'équipe du soir. Le siège de l'Orange Vélodrome qui est à gagner. C'est un cadeau magnifique.
Ah oui.
Oula,
il est là.
D'accord, ok.
Un siège de l'ancien stade.
Mais non, pas du tout. Stade actuel.
Stade actuel.
Mon cher Raymond.
Ils ont enlevé un siège.
Ah bah et pour nous,
écoutez,
évidemment.
Pour nous, on est capable de tout. On fait non avec Metz et Lille. Une victoire très importante pour les Lillois à Saint-Symphorien.
Oui, Lille s'est fait un petit peu peur, hein, puisque c'est Metz qui avait ouvert le score grâce à Miko Tadze, un pénalty. Ismaili va égaliser, et puis finalement c'est Youssouf Diaziche qui va donner la victoire aux Dogs. Les Lillois sont quatrième de Ligue 1 avec ce succès.
Patrick Vieira a retrouvé son ancien club Nice, et malheureusement ça s'est mal passé.
Et oui, ce sont les Aiglons qui se sont imposés à la méno, grâce notamment à Dante et Morgan Sanson. Dante buteur sur ce corner, parfaitement trouvé par Jérémy Boga, et puis Morgan Sanson face à son ancien club qui donne la victoire à Nice. Victoire 3-1 des Niçois en terre alsacienne.
On va passer à la Ligue des Champions féminines. C'est une habitude, l'Olympique lyonnais se qualifie pour la finale de la Ligue des Champions. C'était un duel face au PSG.
Et les chiffres font un petit peu mal à la tête. Hein. 11e qualification en finale en 17 campagnes de Ligue des Champions pour l'OL. C'est gigantesque. 3e minute de jeu, eh bien c'est Selma Bacha qui ouvre le score pour l'OL. Il y avait eu 3-2 hein, pour les Lyonnaises au match aller au Groupama Stadium. Tabitha Chawinga va redonner de l'espoir au PSG avant la pause. Et finalement, à 10 minutes de la fin, c'est Melchi Dumornay qui enterre les rêves de finale du Paris Saint-Germain. 5-3 sur l'ensemble des deux matchs. Les Lyonnaises affronteront le FC Barcelone en finale. Ce sera le 25 mai à Bilbao. C'est la même finale qu'en 2022. Les Lyonnaises s'étaient imposées à l'époque.
Bravo aux joueuses de Sonia Bonpastor. Vous avez pris vos places pour la finale aussi ?
Non.
Ah. C'est où ? C'est où ?
À Bilbao.
À Bilbao. Vous n'écoutez pas, en fait, non, non, c'est vient de dire. Il y a
dans un monde parallèle.
On part en Première Ligue avec un choc. C'était le derby londonien entre Tottenham et Arsenal. Qui a gagné ?
Eh bien, ça a souri aux Gunners qui ont démarré très très fort cet après-midi dans le North London Derby. Corner de Bukayo Saka, Pierre-Emile Højbjerg qui marque contre son camp. Contre-attaque à la 27e minute des Gunners. Kai Havertz qui lance parfaitement Bukayo Saka qui repique intérieur. C'est magnifique. Et en fin de première période, c'est Kai Havertz, l'Allemand, qui va marquer sur ce corner. 3-0 à la pause. Les Gunners vont se faire un petit peu peur en deuxième période, puisque les Spurs vont revenir avec cette erreur de David Raya, parfaitement reprise par Christian Romero. Et puis finalement, Son sur penalty va réduire l'écart. Mais nord de Londres est bien rouge aujourd'hui.
Et il y avait un match aussi important. Et c'est City qui l'a gagné pour cette lutte pour le titre de champion d'Angleterre. City qui s'impose à Nottingham.
Oui, les Gunners sont toujours leaders, mais toujours sous la menace de Manchester City qui a un match en moins. Les Citizens ont réussi à s'imposer à Nottingham Forest. Ça n'a pas toujours été simple. Josko Gvardiol permet à City de prendre les commandes dans cette partie. Puis Erling Haaland, qui était remplaçant, va offrir la victoire aux Mancuniens avec ce joli enchaînement. 21e but de la saison en Première Ligue. C'est évidemment le meilleur buteur du championnat.
Et Dave, vous nous l'avez annoncé, City ne craque pas, mais pour vous, ça sera quand même Arsenal qui va enfin regagner un titre de champion d'Angleterre.
Ouais, c'est ma conviction depuis le début de saison, c'est que qu'Arsenal a beaucoup appris de la saison dernière où pareil, ils avaient joué le titre et ils s'étaient effondrés dans les derniers instants.
Tanguy, vous parlez très fort en fait.
Ah ouais. C'est peut-être un chroniqueur qui s'ignore. Hein.
Et, peut-être.
Et voilà, et je trouve que quand ils ont battu City. Lors du Community Shield, qu'ensuite ils ont tenu tête en championnat, je me suis dit qu'ils avaient passé un cap. Et moi, je les vois tenir, je les vois enchaîner. Ils auraient pu s'effondrer après le Bayern. Et moi, je les vois enchaîner avec la manière. City, à mon avis, il y a bien un moment où ils vont lâcher ne serait-ce qu'un match nul. Et moi, je vois Arsenal les coiffer au poteau.
Et Raymond, vous, c'est City toujours.
La différence, c'est que l'année dernière, Arsenal était devant,
ouais.
Et ils se sont fait rattraper petit à petit. Là, ils sont derrière et il faut qu'ils courent.
Là, ils ont un point.
Les autres ont un match en retard et ils sont derrière, donc de 2 points derrière.
C'est quand même sympa des championnats où ça bataille jusqu'au bout pour le titre.
Et moi, je vois City gagner.
Vous voyez également
sans problème. Quatre matchs, 4 victoires. Ils ont leur destin dans leurs pieds. N'oublions pas qu'Arsenal va aller à United, à Manchester. Ouais. Et le match le plus dur pour City, c'est d'aller à Tottenham, qui joue plus grand chose.
Je vois une des deux équipes être championne d'Angleterre.
Joli. Oh, merci Nabil. Vous voyez de façon très claire.
Je vois juste
l'intuition. Oui.
Bravo. On part en Italie avec l'Inter qui a fêté son titre à la maison contre le Torino avec un nouveau succès.
Oui, les Interistes, champions d'Italie pour la 20e fois. Les joueurs de l'Inter Milan ont été honorés par leurs adversaires du jour avec une magnifique aide d'honneur et un magnifique tifo. Vous allez le voir dans les tribunes de San Siro. Dans le jeu, les Interistes se sont imposés 2-0 grâce à un doublé de Çalhanoğlu. On voit son nouveau but. Parce que l'autre, c'est sur pénalty. On va également vous montrer les images du titre qui est fêté dans la ville avec les tifosi, des images magnifiques dégotées ce soir par notre assistant d'édition, Thomas Morlaix.
Tu vois, Karine, là, il faut se demander ce soir si des supporters parisiens, 3-4 000, sont réunis pour fêter le titre à Paris.
Pour la Ligue des Champions, ils le feront.
Voilà. Là, je te pose, tu me dis que c'est hyper important et tout.
Hein, non, je dis rien, moi.
Tu viens d'être champion. Tu l'as dit.
Dans n'importe quel, t'as au moins 3-4 000 mecs qui se réunissent. Voilà. Là, on est ici, moi, je ne sais rien. Au Trocadéro ou Place de la Concorde.
Je crois pas. Non, c'est pas prévu.
Ou à l'Arc de Triomphe.
Autour du parc.
Bon, ben. Non. Bon, mais ça veut dire que c'est un train qui arrive à l'heure.
C'est ta meilleure intervention de la soirée.
Oui, mais je la fais toujours à la fin.
Un mot de rugby.
Au buzzer.
Un mot de rugby avec le top 14 en clôture de la 22e journée. Le Stade Rochelais recevait Toulon ce soir.
Et au Stade Marcel Deflandre, les Rochelais se sont imposés 27-17. On vous a mis cet essai de Levani Botia, le troisième ligne fidjien qui fêtait sa 200e avec les Rochelais. Trois essais à deux pour les Maritimes ce soir face à Toulon et La Rochelle qui revient dans le top 6 du top 14.
Effectivement, du judo avec les championnats d'Europe. L'équipe de France a brillé pour le dernier jour donc des championnats d'Europe et ça se passait en Croatie.
Une victoire nette et sans bavure de l'équipe de France en par équipe face à la Géorgie. Une victoire 4-0 face aux Géorgiens. Ce sont Faïza Mokhdar, Margot Pino, Alexis Mathieu et Johan Benjamin Gaba, que l'on voit à l'image, qui ont donné la victoire aux Bleus. C'est ce dernier qui s'impose là sur ce golden score.
On va parler de hand avec un succès important de Metz en Roumanie face à Bucarest. C'était en quart de finale de la Ligue des Champions.
Succès 27-24 à l'extérieur pour les Messines. On vous a mis cette image, le lob astucieux de Chloé Valentini, auteur de 7 buts. Oh, c'est l'une des meilleures marqueuses brestoises de la partie. À noter également les 45% d'arrêt d'Atado Sacco. Elle a été déterminante dans cette partie. Match retour le 4 mai prochain pour les Messines qui tenteront de valider leur place pour le Final Four.
Du basket, et on ne parle pas de James Harden, Nabil. C'était de la Betclic Elite qui se jouait ce soir.
Très sympa,
le Paris Basket, bien sûr, a conforté sa deuxième place.
La Dirifi.
Oui, à la maison, à l'Adidas Arena de Paris. Victoire 84-80 contre son premier poursuivant, Bourg-en-Bresse. Les deux stars du match, Nadir Ifi et Zachary Bouchy, ont brillé. 17 points pour le Parisien, 18 pour le Bressan, pour un succès plutôt tranquille pour les Parisiens qui conservent donc leur deuxième place au classement.
Et un dernier mot de voile, c'était le départ ce dimanche de la Transat CIC.
Oui, un départ à 13h30 au large de l'Orient pour cette course qui mènera la flotte jusqu'à New York en passant par le nord de l'Atlantique. C'est la petite particularité. 48 bateaux ont pris le départ. 33 Imoca, 13 classe 40 et 2 bateaux vintage. Chez les Imoca, c'est Charlie Dalin qui est en tête au pointage de 21h. Chez les classe 40, Nicolas Destet est le mieux parti sur son bateau. Bateau. café joyeux.
Merci beaucoup Tanguy Le Sévillier. Merci à tous d'avoir été à mes côtés. Plaisir. Demain, ne manquez pas le deuxième volet de Rocky qui sera à découvrir sur la chaîne L'Équipe. La revanche. Et oui, il y a un homme déjà qui est au taquet. C'est Dave Apadou. Merci à tous d'avoir été à mes côtés. Merci à Antoine Maigre qui était dans l'oreillette. Belle nuit à tous et pensez à ces 40 buts marqués en Ligue 1. Et oui, la Ligue 1 qui cartonne. Belle nuit à tous.